Bonsoir à tous.
Constateur.
Et à tous. Donc on va essayer de réfléchir, si vous voulez bien, un petit peu sur cette notion de l'autorité qui est une chose très importante pour arriver à comprendre qu'elle est, en fin de compte, en général, la place de la structure. Parce que le principe, c'est que à chaque fois qu'on parle d'éducation, on parle de chinour, on parle en fin de compte de l'impact qu'on va créer chez l'enfant. Comme on vient de passer Hanouka, c'est chinuch hamizbeach. Le chinuch, c'est quoi? C'est l'apprentissage qu'on donne à quelque chose. Les premiers corbanotes qu'on fait sur le mizbeach, c'est pour donner la direction, c'est pour donner la nature des choses. C'est exactement pareil. L'enfant, en vérité, les gestes qu'on va faire ne sont pas tellement importants. Ce qui est important, c'est ce que ça va produire chez l'enfant. Maintenant, le problème avec ça, c'est qu'on a du mal toujours à mesurer l'impact. C'est un petit peu comme si on travaillait en aveugle. C'est comme si l'enfant, il est à l'intérieur d'un sac. Et en vérité, jusqu'à son mariage et des fois après, on n'a pas encore compris exactement ce qu'on a produit. On travaille un peu en aveugle. Donc, en aveugle, ça veut dire sans voir exactement les... On ne voit pas tout de suite les résultats. Les résultats, ils viennent à long terme. Alors, le principe ici, c'est quoi, encore une fois? C'est que nous, on parle du comportement des parents, mais on doit toujours réfléchir par rapport à ça, les conséquences au niveau de l'enfant. C'est pour ça que dans la logique, on est obligé toujours de se placer, en tant que parent, du regard qu'on a sur ce qu'on est en train de faire, et en même temps de réfléchir au regard que l'enfant il a sur nous, qu'est-ce que lui il reçoit. Parce qu'il y a toujours une différence entre ce que nous on donne et ce qu'on reçoit, comme dans la publicité. Tu dis, comment j'ai fait 100 000 prospectus, j'ai eu 4% de réponse. Et tu dis, c'est normal. Je dis, comment c'est normal? Moi je pensais 100 000 prospectus, 100 000 clients. Non, il y a une différence entre l'investissement et l'impact, le retour. Exactement pareil avec l'enfant. Qu'il y a une logique, par exemple, qu'il faut répéter. En fin de compte, et l'enfant, il comprend à la millième fois quand tu l'appelles, il réagit la quatrième fois. Tu l'appelles, tu dis viens. Il est en train de lire sa bande dessinée. Alors tu dis viens, alors il vient pas. Après tu dis viens, il vient pas. Après tu cries viens, alors il se réveille. Alors toi, pour toi, c'est la quatrième fois, mais pour lui, c'est la première fois. Donc tu es toujours obligé de calculer en fonction de de sa position à lui et pas ta position à toi. Alors, et maintenant, on va réfléchir comment fonctionne l'influence que le parent y crée par l'autorité et ensuite la résonance que ça peut avoir chez l'enfant. Et c'est ça la logique. Pourquoi? C'est marqué « Adam olech achar svivotav » qu'un homme, il va selon son entourage, dit le Rambam. L'entourage, c'est quoi? C'est ce qu'on crée autour. Maintenant, nous, on crée autour quelque chose et on essaie de créer un impact à l'intérieur de l'enfant. Alors ici, il y a une notion pour comprendre ça. Il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Naase Venishma. Naase Venishma, c'est un passage extraordinaire, un épisode de la Torah où on voit que les Bnei Israël, ils ont eu cette force extraordinaire d'être capables de dire Naase, nous ferons, Venishma, ils nous comprendront. Maintenant, il y a beaucoup d'explications, mais nous, on va prendre juste l'angle qui nous intéresse ce soir par rapport à la notion de l'autorité. C'est quoi? C'est par exemple de réfléchir, est-ce qu'un enfant, il faut d'abord lui expliquer ce qu'on attend de lui, et ensuite lui imposer, ou alors d'abord lui imposer et après lui expliquer. Alors là, il y a des grandes écoles, il y en a qui disent, non, il faut prendre des heures et des heures et expliquer à l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant de lui-même, il accepte, d'accord? Ou le contraire, non, il faut lui dire, c'est comme ça, vous voyez, qu'il accepte la chose, et après lui expliquer. Et la logique, c'est quoi Naase Venishma? C'est justement cette notion-là, que les Bnei Israël, en vérité, ils ont accepté de faire, même sans comprendre, et ensuite ils ont fait. Il y a aussi exactement la même période aussi, quand à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué que les Bnei Israël, ils ont accepté de faire les mitzvot, et pourtant, c'est marqué qu'Ofer Aleem Arke Gigit, Hachem, il leur a mis la montagne sur la tête. Il a pris le Arsina, il l'a mis au-dessus de leur tête. Il a dit, ou vous acceptez, ou je vous écrase. Mais les commentaires, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais déjà, ils avaient accepté. À quoi ça servait? La logique, elle est très simple. C'est qu'en vérité, le niveau de compréhension de la personne, elle dépend de son niveau d'acceptation. Le niveau de Nishma, il dépend du niveau de Naase. C'est-à-dire que toi, tu crois, il y a beaucoup de gens comme ça qui croient, on va expliquer. Mais l'enfant, pour qu'il comprenne, il faut qu'il ait un bête qui boule et un réceptacle. Or, le réceptacle, il vient justement du fait qu'il a accepté la chose. C'est-à-dire que l'autorité, elle va être la base de la compréhension. Les gens, ils croient à l'inverse. Oui, comment tu imposes aux enfants, tu leur imposes. Mais non, parce qu'en fait, elle ne peut pas commencer la compréhension s'il n'y a pas une base de confiance. Et la confiance, c'est quoi? C'est d'accepter qui c'est qui a raison, qui est-ce qui a tort. Qui c'est qui a raison, qui est-ce qui a tort. C'est pour ça que c'est très important que les parents, ils soient du même avis, les deux. Pourquoi? Ah, mais tu dis, mais c'est pas grave s'ils ne sont pas du même avis. Comme ça, l'enfant, il va apprendre la pluralité, il va apprendre le pluriel. On peut dire comme ça. Non! Il va apprendre l'instabilité. Parce qu'il dit, le papa il a dit oui, le maman il a dit non. Le papa il a dit il faut faire comme ça, la maman il a dit comme ça. Alors qu'est-ce qu'il voit l'enfant? Il voit le balagan. Il voit l'instabilité. Et ça c'est quoi? C'est le terrain. Maintenant, encore une fois, il y a toujours un keli, un ustensile, un terrain, un réceptacle. Et dedans on va mettre une donnée. Maintenant tu peux mettre une donnée qui est bonne, une donnée qui est mauvaise. Tu peux donner une donnée qui est vraie, une donnée qui est fausse. Mais le problème c'est, est-ce qu'il y a un réceptacle? Maintenant le vrai problème c'est quand l'enfant n'a pas d'oreille. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Pourquoi? Parce qu'il manque, on n'a pas créé le terrain. Et le terrain, c'est quoi? C'est la confiance. Le terrain, c'est l'écoute. Le terrain, c'est, la, c'est le rôle. Parce qu'il y a une place de père, il y a une place d'enfant. Maintenant, lui, il prend sa place d'enfant, d'accord? Donc, il est mécabel, il est mouchpa, il est influencé. Et le père, il est machpia. Maintenant, ça donne une double responsabilité. Une responsabilité chez le père et chez la mère d'être des machpim, oui? Et une responsabilité chez l'enfant d'être un mouchpa. C'est-à-dire que l'enfant, il va être influencé parce qu'il y a quelqu'un qui l'influence. L'enfant, il va recevoir parce qu'il y a quelqu'un qui donne. Donc maintenant, la responsabilité, elle est double. Parce qu'il faut que les parents aient quelque chose à donner et il faut qu'ils aient créé chez l'enfant cette confiance de recevoir. Maintenant, si l'enfant, il ne voit pas que c'est quelqu'un qui mérite qu'on reçoit, ouais, il voit qu'il n'est pas clair, ou que la maman, elle est hystérique, ou que le papa, il se débarrasse, ou qu'il se contredit, ou que la mère, elle ne sait pas ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut. Donc l'enfant maintenant, il ne va pas écouter. Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il ne sent pas qu'il y a devant lui quelqu'un qui peut lui montrer. Alors comment? Donc la logique c'est quoi? Le naasé c'est une forme d'imposition, mais en vérité qui est sur la base d'une confiance. Comme en mathématiques. En mathématiques, le professeur, il écrit un théorème, après il fait la démonstration. Alors un élève, il va dire, alors comment on dit en français? On dit, alors nous allons poser que... Alors l'élève, il dit, qui c'est qui a dit que c'est comme ça? Pourquoi vous nous imposez que c'est comme ça? Tu dis non, on pose le théorème, après on fait la démonstration. Maintenant toi, si tu n'acceptes pas déjà le principe du théorème, tu ne peux pas rentrer dans la démonstration. Vous me suivez ou non? Dans la vie, c'est la même chose. Toi, tu es obligé d'avoir une base de confiance. Parce que s'il n'y a pas une base de confiance, tu ne comprends rien. Comme la Gemara raconte, il y avait un, il a voulu se convertir. Il a dit, mais je ne veux pas apprendre des sages. Moi, je ne veux pas écouter des chachamim, je veux directement la Torah. Alors, il a dit, bon, tout le monde l'a jeté, et il y a un rav, il a accepté. Il a dit, bien. Il a commencé, il a dit, bon, on va apprendre à lire. Il a dit, voilà, ça c'est Aleph, ça c'est Bet. Il a pris le Aleph, le Bet. Il dit, reviens le lendemain. Lendemain, sur le Aleph, il dit, ça c'est le Bet. Et ça, le Bet, il dit, ça c'est le Aleph. Il dit, mais hier, tu m'as dit le contraire. Il dit, tu vois que tu as besoin des chachamim. C'est exactement la même chose. Oui? On a besoin, les parents ont besoin de la confiance de l'enfant, mais il faut qu'il soit digne de confiance. C'est très très important. Eux-mêmes, ils soient dignes de confiance. D'accord? Si par exemple, la personne elle est lunatique, elle est imprévisible. Une fois elle dit blanc, une fois elle dit noir, une fois elle est gentille, une fois elle fait des crises. Il y en a qui sont gentils, méchants. Il y en a qui sont méchants, gentils. C'est très vicieux. C'est des gens qui frappent, mais avec le sourire. Ils sont gentils, méchants. Tu dis, il est fou celui-là. S'il te frappe, il rigole. Il est malade. Ouais. Lui, il est gentil, mais on sent que ça lui fait de la peine d'être gentil. Donc parfois, il ne comprend pas. Maintenant, il a fait du bien, il mérite une récompense. Maintenant, il a fait du mal, il mérite une tlecha, et c'est très bien. Pourquoi? Parce que la justice, ça rassure. Mais l'injustice, ça déstabilise. Maintenant, si tu es injuste, c'est que tu n'es pas juste. Je ne sais pas si vous me suivez. Si tu es injuste, c'est que tu n'es pas juste. Et on a dit que la justice, c'est Tzedek, et le symbole de la justice, c'est la balance, et la balance, c'est l'équilibre. Donc la première base de confiance de l'enfant, c'est l'équilibre des parents. Si tu es déséquilibré, oui, l'enfant, il n'a pas de confiance. Tu as beau dire, oui, mais de toute façon j'avais raison, mais c'est pas pour rien que je me suis mis en colère, mais je ne vous connaissais pas, vous ne vous rendez pas compte, vous croyez que c'est facile, et je suis énervé. Tu fais comme tu veux, mais les conséquences, elles existent. Comprenez ou non? C'est comme si tu casses la vitre, après tu dis, il fait froid dans la maison, mais tu as cassé la vitre. Tu dis, mais j'avais des bonnes raisons, on m'a énervé. D'accord, mais il fait froid. Tu dis, mais c'est pas la raison qui fait froid. Non, c'est la raison que tu as cassé la vitre. Maintenant, c'est comme tu veux maintenant. Tu casses la vitre, il fait froid. Maintenant, tu déstabilises l'enfant, il n'a pas confiance en toi. Après, tu lui mens, il ne te croit pas. Après, tu es injuste, il n'est plus avec toi. C'est comme ça. C'est mécanique, c'est logique. D'accord?
Et on a de la chance que c'est comme ça déjà. C'est-à-dire que déjà, on a compris qu'il y a des causes et des conséquences. D'accord ? Donc, puisqu'il y a des causes, alors maintenant, nous, on est à l'origine des causes. Alors, en tant que parents, on doit bien réfléchir et savoir que si on veut, encore une fois, avoir une autorité qui soit une autorité de référence, c'est-à-dire que l'enfant, ça l'équilibre. Et c'est très bon. L'enfant, il adore l'autorité parce que ça le rassure. Maintenant, l'autorité, ça rassure, mais la violence, ça fait le contraire. La crise, ça fait le contraire. Pour ça, toujours, je vous donne cet exemple. Comme quelqu'un, il va dire à son fils, « Bon, allez, maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. » Ou alors, il va dire, « Bon, alors, maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. » Vous avez senti la différence entre les deux ? Non. Une fois, j'ai parlé avec assurance. Et une fois, j'ai mis de la panique dans la voix. Maintenant, l'enfant, il ne veut pas aller dormir. Pourquoi ? Parce qu'il a peur du noir. Maintenant, quand il entend la panique dans la voix, donc il sent la peur. Donc la peur, elle ne va pas le rassurer. Donc il a encore plus peur. Donc il ne veut pas aller dormir. Ça. Tu dis oui, mais encore une fois, il m'énerve. Oui, je sais, c'est pour ça que tu as cassé la vitre. C'est pour ça qu'il fait froid. On a compris. Mais alors, il faut décider un jour ou l'autre. Ou tu vas être un adulte. Et donc, il y a des choses à faire. Et il n'y a plus de raison. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est normal. Ouais. Comme dans le travail, tu dis, j'arrive pas, j'arrive en retard. C'est comme tu veux, mais si. Oh, t'arrives en retard. Après, il te renvoie, tu dis, oui, mais tu crois que c'est facile. Moi, je dors mal, et moi, je dors tard, et j'ai pas entendu le réveil, et je suis fatigué. C'est comme tu veux, mais tu dois venir à l'heure. C'est un contrat, c'est marqué 9h, 17h. Pas 9h10, 9h20, 10h moins quart, avec des raisons. 9h15, le réveil. 9h30, le métro. 9h44, la neige. 9h43. Ah ben. Moi, je n'étais pas employé pour être fabricant de raisons. Sinon, je vais créer une agence de création de raisons et je vais te prendre. Je t'ai pris pour avoir un emploi. Alors, de la même manière que être à l'heure dans son travail, c'est une obligation. De la même manière, être à sa place en tant que père et en tant que mère, c'est une obligation. C'est comme ça. Maintenant, les gens y croient, ça leur crée un stress. Mais en vérité, c'est que ça les met à leur place. Maintenant, quand toi, tu es à ta place, l'enfant, il est à sa place. Chacun, il est à sa place. Maintenant, encore une fois, ça lui fait du bien à un enfant d'être à sa place. Pourquoi ? Parce qu'il est à sa place d'enfant. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais pour qu'il trouve sa place d'enfant, il faut que les parents ils soient à leur place. Maintenant, si les parents font les enfants n'ont pas leur place d'enfant. Alors quand tu dis, eh ben, il m'a énervé, et j'en peux plus, et je fais ma crise, et que je casse tout. L'enfant, il dit, bon, lui, je ne peux pas compter sur lui parce qu'il est trop nerveux. Elle, je ne peux pas compter sur elle parce qu'elle est dépressive. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la rue, il reste la télévision, la PlayStation. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas sa place. La place, elle est définie. C'est exactement comme la pièce du puzzle. Tu mets une, deux, trois, quatre, il manque un trou au milieu, tu mets la cinquième. Elle rentre bien. Comment est-ce ? Elle rentre bien. Eh bien, la famille, c'est comme ça. La famille, il y a 6 pièces dans ce puzzle. Il y a le père, la mère et les 4 enfants. Ben, celui-là, c'est l'aîné. Celui-là, c'est la grande sœur. Elle a un rôle à jouer. Celui-là, c'est le troisième, il a un rôle à jouer. Et celui-là, c'est le petit dernier, il a un rôle à jouer. Chacun, il a sa place. C'est normal. C'est une hiérarchie. Pour ça, la tour, elle donne une misva pour les parents, une misva pour les enfants de respecter les parents, une misva pour les parents de respecter les enfants, une misva pour le petit frère de respecter le grand frère et la grande sœur aussi. Comprenez ou non ? C'est-à-dire qu'il y a une misva de hiérarchie. Pourquoi, encore une fois ? Parce que cette hiérarchie, elle rassure. C'est très important. Maintenant, tu laisses le balagan. Le gosse, il parle mal à son père. Oui ? Il envoie balader sa mère, la fille elle claque la porte, le petit gamin il fait son caprice, il empêche tout le monde de partir en vacances. Mais en soi c'est pas grave, rien n'est grave. Le seul problème c'est que celui-là qui gère pas, il est perdu. Et moi je vois les gens ils appellent, ah mais tu es triste, vous trouvez ça normal, ma femme, mon mari, mes enfants, les nerfs, les crises, la drogue, le... Je dis mais... Où est votre famille ? Où est la famille ? Parlez-moi de la famille. Vous me parlez de la conséquence, mais la conséquence, elle vient à la fin de l'histoire. Ce qui compte, c'est là. Ne me dis pas, le fils, il m'a mis une claque quand il avait 14 ans. Oui ? Dis-moi, comment ça se fait quand il avait 6 ans, il t'a insulté, t'as rien dit. Ça commence. Nous, les enfants, à un an et demi, il lève la main comme ça, on lui dit, baisse la main devant ton père. Un an et demi, oui ? Un an et demi. Pourquoi ? Parce que ça commence très tôt. Ah maintenant tu vas dire, mais tu vas le traumatiser, tu vas le casser, mais laisse-le vivre, laisse-le respirer. Tu n'as pas compris encore une fois que c'est une logique que ça le rassure au contraire. L'enfant, il sait. Pourquoi il dort bien? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui protège la maison. Il dort bien. Pourquoi? Toi, tu tiens ta place de père, et lui, il tient sa place d'enfant. Donc le fait de lui imposer, ça veut dire quoi? C'est une fermeté, en réalité c'est une rigueur. Mais ce n'est pas la rigueur dans le sens où on t'écrase, c'est une rigueur dans le sens où on te rassure. C'est comme si, par exemple, quand tu fais de l'alpinisme, oui, il y a des mousquetons, c'est des petits crochets. On tape dans le mur, on les accroche, d'accord? Après, on tape un deuxième, on accroche, et on met une corde. Après, on met encore la corde, on met la corde. Alors, je te dis, tu mets, c'est comment ça? C'est des pointes comme ça, avec un rond. Tu t'accroches, ça tient très fort, oui? Tu dis, mais tu sais, ils sont trop durs. Ils sont pas durs, ils sont solides. Voilà la différence entre dur et solide. Et bien ça s'appelle, en hébreu, ça s'appelle bar samcha. C'est-à-dire que l'enfant, il sait qu'il peut compter sur toi. Comme tu veux ou non? Comme toi, tu vas partir avec un capitaine et tu sens qu'il est bizarre. Il n'arrête pas de rigoler, il est à moitié sous. Tu dis, c'est lui qui va conduire le bateau. Comment s'appelle le bateau? Le Titanic 2. Je crois qu'on va laisser tomber pour cette fois. Oui. C'est possible. Le pilote d'avion, il est sous. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Tu dis, c'est de la folie. Ouais. Eh bien, le père, c'est pareil. La mère, c'est pareil. Ça veut dire qu'encore une fois, le fait d'être solide, et ça, c'est la différence. C'est une autorité, c'est une fermeté, c'est une solidité. Que quand la personne, elle dit Naasé, l'enfant, il dit Nishma. Lui dit Naasé, l'enfant, il dit Nishma. Pourquoi? Parce qu'il sait. C'est une logique de chef d'équipe, c'est une logique de patron, c'est une logique de. Mais c'est pas une logique d'imposition. C'est normal. Alors, on dit en français, tu n'as pas besoin de t'imposer, tu n'as pas besoin de t'imposer. Parce que c'est ta présence, c'est ta maturité, que tu le veuilles ou non, tu es un adulte. Maintenant, si tu te conduis comme un gamin, l'enfant, il voit un gamin devant lui. C'est pour ça que j'ai dit que tu pourras réfléchir à l'impact en fonction de la personne que tu es toi-même. Comme à Gishbukhu, quand il a donné la Torah, ils ont compris, il y avait le bon Dieu et eux, c'est facile. Maintenant, celui qui met le bon Dieu à son niveau à lui, il dit, bon, ça va, il est gentil, il est miséricordieux, de toute façon, la Torah, c'est un peu de la philosophie. Déjà, ils croient, ouais, ils veulent faire de la philosophie avec la Torah. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont enlevé la Yirat Shamayim. Donc, quand ils ont enlevé la Yirat Shamayim, ils ont enlevé la crainte de Dieu. En fin de compte, ils ont enlevé le statut de Dieu à Dieu. Comme les gens disent, tu sais, ce qui compte, de respecter ton copain, ce qui compte, c'est d'être bien avec les autres et d'être honnête. C'est bien, c'est joli, c'est mignon. Mais ils ont enlevé son statut de Dieu à Dieu. Donc c'est normal qu'après, ils peuvent voler, ils peuvent tricher, ils peuvent tromper leur femme, ils peuvent mentir, parce qu'ils se disent, bon ça va, c'est un copain, je vais m'arranger avec lui. Donc tu as enlevé son caractère de Dieu au bon Dieu. Tu en as fait un copain. Comme ils ont fait les scouts, ouais. On fait une BA, tu fais une BA, une bonne action. Oui, ça s'appelle scout, parce que scout choy, d'accord? C'est ça scout, scout de France, d'accord? Il faut mieux te taire. Mais non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé le judaïsme, la Torah du judaïsme. Ils ont fabriqué le judaïsme, ils ont enlevé la Torah. Mais le seul intérêt de la Torah, c'est la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que ça situe, il y a le bon Dieu et il y a toi. Maintenant, de savoir que le bon Dieu, il est vrai, ça te rassure. De savoir qu'il est fort, ça te rassure. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que les Chachamim dans la Gemara disent que quand dans une famille, Chas v'Shalom, il n'y a pas le respect des parents, Dieu, il quitte cette maison. La Shekhina, elle quitte la maison. Pourquoi? Parce que qui c'est le représentant de la Shekhina dans la maison? C'est les parents. Donc quand ils ne jouent pas leur rôle de parent, eh bien, Hachem, il a quitté. Mais alors le problème, c'est que quand il a quitté, c'est-à-dire que l'enfant, il a perdu cette dimension de l'autorité. Donc même dans la rue, il a perdu. Même en tant qu'adulte, il a perdu. Parce qu'il n'y a plus rien qui respecte, puisque de toute façon, il n'y a rien qui lui impose. Donc cette logique-là, encore une fois, c'est une interaction. Ouais. C'est comme tu dis, la tarte, elle cuit parce que le four est chaud. C'est comme ça. Tu dis, oui, mais c'est quelque part, ça va la stresser, cette tarte. Oui, mais elle est cuite. C'est bien, elle est cuite. Alors toi, tu dis, oh, je ne vais pas être un four trop chaud. Bon, mais l'enfant, il n'est jamais vraiment cuit. Il est comme ça, il est mi-mou, mi-cuit, mi... Oui. Il n'arrive pas à aller au bout de ses choix, il n'arrive pas à finaliser les choses. Pourquoi? Parce qu'il avait des parents comme ça. Vous savez, j'avais une maman très très autoritaire, ah bon? Et un papa, enfin, il était absent. Il était présent, mais il était absent. Dans son coin, il avait des soucis. Alors donc, bon. Et la mère, ah ben la mère était très très présente, mais un peu trop présente. Tellement présente que même le père, il était absent devant la mère. Ah bon? Alors c'était quoi? C'était un père. Donc il avait une mère père. Et un père pépère. Donc il n'a pas eu de mère, puisque sa mère était un père. D'accord? Il n'a pas eu de père, puisque son père était pépère. Donc il n'a ni père ni mère. Les jeux ont fait un père et noir.
Un père?
Un père et noir. Au casino. D'accord. La roulette. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée justement, c'est que c'est exactement le contraire de ce qu'on pense. C'est que non seulement l'autorité, elle est nécessaire, mais elle est nécessaire à la compréhension. Donc ça veut dire que l'enfant, d'abord, il doit accepter. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Premièrement, parce que en vérité, dans une famille, il y a toute une série de choses que tu n'as pas le temps d'expliquer. Après, il y a des choses que, de toute façon, l'enfant, il ne peut pas comprendre. Après, il y a des choses que l'enfant, il comprendra plus tard. Donc, ça ne rime à rien de dire « je vais tout expliquer ». En soi, déjà, ça ne va rien dire. Et deuxièmement, c'est que l'ouverture d'esprit qu'il faut pour comprendre, elle dément justement du niveau d'acceptation. Parce que quand on dit « na assez minishmar », les gens, ils croient que ça veut dire que la Torah, elle a dit « vous savez, il faut être capable de s'engager, à faire, de faire, et après, tu vas comprendre ». Mais c'est faux. Même les gens ils se disent, écoutez, tu le ramas, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Il y a 10 ans, on m'a dit, fais Shabbat, fais la cacheroute, et après tu comprendras. Il me dit, bah, j'ai fait Shabbat, j'ai fait la cacheroute, et je comprends toujours rien. Alors, ça n'a pas marché. Mais, JG, ça veut dire jeune jbeb, ouais, en vérité, ça n'a rien à voir. Comme tu as fait comme un singe, oui, mais quand tu as fait, est-ce que tu as fait ou tu t'es engagé à faire? J'ai dit, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Les gens, ils prennent des gestes. Comprenez ou non? Ils prennent des gestes. Ils prennent les gestes du Shabbat, les gestes des téfilines, les gestes de la cache-croûte, comme des singes. Mais un singe qui fait des gestes, il n'évolue pas. En vérité, qu'est-ce qui fait changer quelqu'un? C'est pas le geste, c'est l'engagement. D'accord? Donc tu es ici. Alors je dis, bon, qui c'est qui vient avec moi? Alors il y en a un qui dit bon bah écoutez, si je dois y aller, bon, alors j'y vais. Et il y en a un deuxième, il dit bon écoute, j'y vais parce qu'il va me tuer, d'accord. Alors l'autre il dit bon bah moi j'y vais parce que comme tout le monde y va, j'y vais. Tu vois ces trois là, ils sont venus mais ils sont pas engagés. Maintenant celui qui s'engage, ouais, celui qui s'engage, maintenant il est partie prenante de cette situation. Il dit ah j'ai compris que c'est bien de le faire, alors je m'engage à le faire. Alors quand il s'engage à le faire, il s'engage. Qu'est-ce qu'il crée? Il crée un mouvement. Ce mouvement-là, il est exactement le même que le mouvement qu'il faut créer pour comprendre. Alors, je vous résume en philosophie. Le degré d'ouverture qui est nécessaire pour comprendre, il est exactement de la même intensité que le degré qu'il faut pour s'engager. C'est ça, Narassé. Narassé, ce n'est pas nous avons fait et nous allons comprendre. C'est nous allons faire. Donc le fait de s'engager à faire, c'est ce qui fait que tu comprends. Comme quelqu'un, tu veux lui expliquer quelque chose, mais tu vois qu'il n'écoute pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'il n'a pas écouté. Non, il écoute. Mais il ne veut pas écouter. Quand tu dis, attends, excuse-moi, là. Tu sais, des fois tu expliques, après il dit, excuse-moi, je n'étais pas concentré, j'ai... Mais il a entendu ce que tu as dit. Pire, il peut même répéter ce que tu as dit. Mais là, il a compris. Et toi, tu lui dis, excuse-moi, je sais que tu as rien compris. Là, j'étais amené braque. Un monsieur, Rav et tout ça déjà, il m'a posé une question sur la paracha. Il m'a dit, bon, il y a un midrash bizarre. Il m'a posé la question. J'ai dit, je vais te répondre, mais c'est un peu compliqué. Lui, il est chacham. Il m'a regardé, genre, tu vas me dire que j'ai un truc compliqué pour moi. Un peu de gava comme ça. Je lui ai dit, pense, ça va prendre un quart d'heure, je vais bien t'expliquer. J'ai expliqué, mais c'est compliqué. J'ai parlé vite parce qu'il est chacham. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il a rien compris. Alors je lui ai dit, c'est bon? Il me dit, ouais, c'est bon. Je lui dis, mais t'as rien compris. Mais non, c'est bon. Je lui dis, non, je te dis, t'as rien compris. Parce que moi, je sais ce que c'est ça. Je sais que le temps que ça prend, je sais ce qu'il faut pour le comprendre. Et je vois dans tes yeux que t'as rien compris. Parce qu'il y a une brillance des yeux. Des gens qui comprennent. Les yeux, on dit les yeux, ils s'éclairent. Tu vois, le type, il n'a rien compris. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que dès qu'il a vu que ce n'était pas son style de Torah, c'était un peu trop ouvert, c'est un peu trop mélange de philosophie, de psychologie, de Kabbalah, ils ont peur, les gens. Alors ils disent, bon, alors il fait genre, il a compris. En fait, il n'a rien compris. Après, 4 ans après, il prend un Khatam Sofer, il étudie pendant 1h30, il te dit, hey, c'est ça qu'il a dit, j'ai compris ce qu'il a dit, il y a 4 ans. C'est bien, je t'ai dit que ça prendrait un quart d'heure. Ben alors, quand tu t'engages, ça prend un quart d'heure. Et quand tu t'engages pas, ça prend 4 ans. Toute la vie, c'est comme ça.
T'as compris, non?
Quand tu veux bien écouter ta femme et ton mari, ça prend 5 minutes. Quand tu veux pas écouter, ça prend 4 ans. 4 ans d'engueulade, de nerfs, de stress, de prise de tête. Après, tu vas assister à un cours, tu écoutes une cassette, tu vois un film, et après, tu dis, ah, oh, mais c'est évident. 4 ans. Quand tu n'écoutes pas, 4 ans, quand tu écoutes, 1 seconde. Pourquoi? Parce que là, tu t'es engagé. C'est comme si tu dis, voilà, excuse-moi. Là, maintenant, je vais bien t'écouter. Vas-y, assis-toi, je vais bien t'écouter. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que des fois, tu dis, bon, ça va. C'est pas... Il n'y a rien de compliqué. Oui, mais le problème, c'est que moi, je ne veux pas comprendre ce que tu dis. Je veux comprendre ce que tu veux dire. D'accord? Donc, maintenant, ça veut dire qu'il faut s'investir. Comment il s'appelle cet investissement? Naasé. Naasé. Alors, de la même manière que je suis ici, je vais aller là-bas. Alors, je fais comme ça, je fais. Je crée un mouvement. Je crée un mouvement. Et bien, il n'y a pas de différence, encore une fois, entre le mouvement que je crée pour faire, oui, et le mouvement que je crée pour comprendre. Et c'est parce que je me suis engagé à faire. Donc, entre guillemets, engagé à faire, vous enlevez faire, il reste engagé. Et bien, c'est cet engagement qui fait que tu comprends. Ça va? Ça va ou non? Pourquoi? Parce que pour s'investir dans un truc, il faut un minimum de confiance. Ça va? Pour faire, il ne faut pas de la confiance. Même un zombie, même un robot, il peut faire. Mais pour faire, il faut de la confiance. Donc quand tu veux que ton enfant, il soit naassé, il comprenne, il faut qu'il s'engage. Et pour qu'il s'engage, il faut qu'il ait confiance. Donc le climat de confiance que tu crées, il vient du fait que tu le rassures. Et pourquoi tu le rassures? Parce que tu assures. Donc quand tu n'assures pas, il n'est pas rassuré. Quand il n'est pas rassuré, il n'a pas de confiance. Et quand il n'a pas de confiance, il ne comprend rien. Et bien l'autorité, elle fait ce travail-là. L'autorité, elle rassure. Ça va? Mais encore une fois, pour rassurer, il faut être rassurant. Ben, c'est ça le problème. Comprenez ou non? Pour rassurer, il faut être rassurant. Si tu n'es pas rassurant, c'est parce que toi-même tu n'es pas rassuré. Comme le Moré. Le Moré, il est dans la classe. Oui. Après, il dit, oh, vous savez, j'ai des gros problèmes de discipline. Les enfants ne m'écoutent pas. Je suis tout le temps obligé de crier. D'accord. Je dis, t'as préparé ton cours? Oh, vite fait, dans la voiture, comme ça, j'ai lu la Mishnah. Mais c'est des gamins. Ah, d'accord. Mais non, est-ce que t'as préparé toutes les étapes du cours? Si c'est difficile, en ce moment, j'ai le petit qui dort pas bien. Ah, d'accord. Après, quand tu rentres dans la classe, est-ce que tu connais tous les élèves? Est-ce que tu as séparé les noyaux nerveux, les noyaux trucs? D'accord. Est-ce que, donc, tu n'as pas. Quand tu rentres dans la classe, oui, personne n'est rentré. Maintenant, l'enfant, il sent que tu comprends rien à ce que tu racontes. L'enfant, il sent que tu cries parce que tu veux meubler le vide. L'enfant, il sent qu'il a du temps pour s'amuser. Moi, par exemple, j'ai fait pas mal de conférences. J'ai fait à peu près 4-5 000, d'accord? Comment ça se fait qu'il n'y a jamais de questions à la fin? Les gens me demandent, ils disent, tu dois avoir plein de questions à la fin. Non, je dis pourquoi? Parce que les questions, elles dépendent de 2 choses. Numéro 1, de la logique entre les étapes. Il y a par exemple, il y a 143 étapes dans une conférence. C'est étape 1, 2, 3, 4. Maintenant, si l'étape 1, elle est logique par rapport à la 2, la 2 par la 3, la 3 par rapport à la 4, premièrement, numéro 1, la logique. Numéro 2, le rythme. Si tu as un bon rythme, il n'y a pas de question. Vous savez pourquoi? Parce qu'une question, il faut qu'elle ait le temps d'émerger. Maintenant, dans la conférence, tu as un double problème. D'un côté, tu remets en cause les gens. Ouais. D'un autre côté, tu les rassures. Maintenant, plus tu les rassures dans la logique, plus ils disent, ça vaut le coup d'écouter la suite. Quand ils ont suivi tout le raisonnement, comme il est logique, le type il dit, ah ben, de toute façon, c'est vrai, il a raison. Comme je l'avais dit une fois, quelqu'un il m'a dit, écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je sais que vous avez raison. Un rave, une fois, il m'a dit, ça c'est un philosophe, un rave, il m'a dit, Ani lo mevin ma she'ata omer, aval ani yodea she ze emet. Il a dit, je ne comprends pas ce que tu dis, mais je sais que c'est vrai. Parce que ce n'était pas sa façon de penser. Lui, c'était très Shitamekoubetset, Gemara, Alaha, et dans la Ashkafa, il ne maîtrisait pas vraiment la pensée. Mais ce n'est pas grave, ouais. Il a une pensée droite, mais il ne passe pas par les mêmes chemins. L'idée, c'est quoi? Comme avec le Moré, comme avec le Rav, c'est quoi? C'est que maintenant, on joue sur deux tableaux. D'un côté, on doit créer une confiance, ouais, et d'un autre côté, on doit faire passer un message. Et ça, c'est quoi? C'est le Bet Kiboul. Ça s'appelle Gito Veyado Ben Kehad. On dit, comment tu veux, par exemple, vous savez qu'un serviteur, un esclave, si on veut le libérer, on lui écrit un shtar de libération, un contrat de libération. Le problème, c'est que le Eved, le serviteur, il est la propriété du patron. Donc, sa main, elle est au patron. Donc, quand tu lui donnes le texte de libération, il ne l'a pas reçu, puisque sa main, c'est la tienne. Alors, il demande les commentaires. Alors, la demande, mais comment on peut libérer un esclave? Puisqu'au moment où on lui donne le contrat de libération, c'est comme si tu l'as reçu toi. Donc, lui, il ne l'a jamais reçu, puisque c'est resté dans ta main. Alors, on dit, « Gito veyado ba'in ke'echad ». Son acte de libération et sa main pour le recevoir, elle vient en même temps. Vous voyez cette logique là? Oui, non? Quoi? Oui, même s'il le lit, même il lit. Mais c'est pas ça le problème. C'est que techniquement, il n'y a personne pour recevoir. Alors on dit, il est en même temps. Alors c'est la logique, c'est la même chose. Moi, j'ai besoin que l'enfant, vous voyez, il ait un réceptacle pour recevoir. Maintenant, ce réceptacle, on l'a dit, il est créé par quoi? Par la confiance. La confiance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de l'autorité. Quand la confiance, elle, entre guillemets, elle est posée, alors la compréhension, elle est facile. Comme toi, tu respectes le rave. Alors c'est pour ça que tu l'écoutes. Tu respectes le professeur. C'est pour ça que tu l'écoutes. Tu respectes ton père et ta mère. C'est pour ça que tu les écoutes. Encore une fois, maintenant, pour être respecté, il faut être respectable. On finira jamais. Comprenez? C'est pour ça que la... Que la Gemara là-bas, elle explique, dans Kiddushin, elle dit Galoui vadoua l'ifnemi shi'amar vaya olam. C'est dévoilé et connu devant celui qui a dit que le monde fut, que le monde soit. Shi'aben mitsiare mi'aviv yoter mi'imo. Que l'enfant, il craint plus son père que sa mère. C'est pour ça que c'est marqué Ish imo ve'aviv tira'u. Un homme, sa mère et son père, il craindra. Dans la mitzvah de respect des parents, il y a une facette qui s'appelle la crainte. Et là-bas, c'est marqué Ish imo ve'aviv tira'u. Un homme, sa mère et son père, il craindra. Alors la Gemara, elle demande comment ça se fait qu'on a mis la crainte de la mère avant la crainte du père? Parce que le père, il se fait naturellement craindre. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que la crainte du père, elle vient d'où? C'est marqué chez Aben mitiare mi'aviv. Parce que le père, il craint plus l'enfant, il craint plus son père. Mipné, parce que il lui donne la trait. Non. Parce qu'il lui donne la treha. Non. Parce que Mipné chez Melamdo Torah. Parce qu'il lui enseigne la Torah. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que pourquoi un enfant il craint son père? La Torah dit, il craint son père. Parce qu'il le frappe, parce qu'il le cloue au mur, parce que. Non, pourquoi? Parce qu'il lui casse une batte de baseball sur la tête. Non, pourquoi? Parce qu'il crie, parce qu'il est hystérique, parce qu'il l'enferme, parce qu'il opine. Non. Mipne chez Melamdo Torah. Parce qu'il lui enseigne la Torah. Les gens disent, écoutez, elle s'est trompée, la Gemara. Là, on parle du rave, on parle pas du père. Non, c'est quoi un rave? C'est quoi un rave? Il y a un rave, une barbe, un chapeau. L'imam aussi, il a une barbe. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est quoi? C'est quoi un rave? Un rave, c'est très simple. Un rave, c'est vérité, perpétuité, stabilité. C'est ça, un rave. Un rave, c'est la vérité. C'est la perpétuité. C'est pas un jour il dit ça, après un autre jour il dit ça. Tu dis, écoutez, excusez-moi, vous dites le contraire. Bon, tu sais, la pensée évolue. C'est le beurre qui tourne, le lait il tourne, mais le rave il peut pas tourner, sinon on dit qu'il a mal tourné. D'accord? Perpétuité et stabilité. C'est quoi? Il est stable. Ouais. Si le rave, il est carassan, il est nerveux, il est orgueilleux, c'est pas un rave, c'est bien, ce qu'on appelle un darbu. Oui. C'est quelqu'un de très profond, c'est ce qu'on appelle un ravin. Ça, c'est un rabbin ou un ravin? C'est un ravin. Il plonge et il t'entraîne avec lui. Non, 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 non. Stabilité. Il a déjà travaillé les midotes.
Ouais.
Il ne parle pas d'une chose que lui-même il n'a pas acquis. Sinon, il fait une mitzvah qui est accessible à n'importe qui, il se la ferme. Non, c'est vrai, c'est facile de se taire. C'est une mitzvah. Tais-toi. Quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Quand tu parles d'une chose que tu ne connais pas, tais-toi. Quand tu n'as pas acquis cette chose, tais-toi. C'est bien de se taire, c'est une mitzvah de se la fermer. Pourquoi? Parce que tu transmets ce que tu es. Donc si tu es nerveux, mais alors tu as des bonnes raisons. Alors quelle différence entre l'ignorant qui est nerveux parce qu'il a des bonnes raisons et l'érudit qui est nerveux parce qu'il a des bonnes raisons? Les deux, ce qu'on appelle des amers et des midotes. C'est des amers et des midotes. Les midotes, ça se travaille. C'est la musculation. Quand tu vois que le type, il a des bras comme ça, c'est pas qu'il s'est levé le matin, il avait des bras comme ça. Ça fait 15 ans qu'il fait des haltères. Donc lui, il doit avoir des muscles de midotes. Mais si, dans l'honnêteté, c'est pas évident. Dans la stabilité, c'est pas net. Dans les nerfs, c'est pas ça. Dans l'orgueil, dans la modestie, c'est pas ça. Il manque encore. Alors tu dis, il est rave de quoi? Vous êtes logique ou non? Maintenant, le rave, encore une fois, c'est quoi? Vérité, perpétuité. Il dure, il dure. Tu le connais, 10 ans après, tu le revois, c'est le même. 20 ans, c'est le même. C'est du tungstène. Vous voyez, c'est un métal qui ne se déforme pas ni à la chaleur, ni au froid. Vous voyez, si tu lui donnes 5 euros, tu lui donnes 50 000 euros, il est le même. Ah, s'il change, c'est que il réagit à une certaine température. Oui, c'est pas normal. Donc c'est quoi la logique? C'est que il a vérité, perpétuité et stabilité. Il n'est pas comme ça. Oui? Alors ça s'appelle Rav. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? La Torah, elle a dit que l'enfant, il craint plus son père que sa mère, parce que Melamdo Torah. Donc maintenant, le Rav, c'est le père. D'accord? Alors tu diras deux problèmes. Premier problème, c'est qu'il faut déjà que le Rav, le père, il est étudié pour enseigner la Torah. Ça pose un problème. Après, deuxièmement, on a dit, il ne faut pas seulement qu'il ait étudié, il faut en plus qu'il ait digéré. Parce que si quelqu'un, il a une Torah de Rama, ou quelqu'un, lui-même, il s'est forcé à étudier la Torah, ou lui-même, il étudie la Torah parce qu'il a peur, donc qu'est-ce qu'il transmet à son fils? La Torah de j'ai peur. S'il fait la Torah parce que les autres, ils le regardent, donc qu'est-ce qu'il transmet à son fils? La Torah de attention, je te regarde. Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Comprenez ou non? Ça veut dire que lui-même, il n'a pas digéré, alors il ne peut pas transmettre. C'est comme la pâte quand elle est, la tarte, elle n'est pas cuite. Ne la mange pas, tu vas avoir mal au ventre. Parce que le processus n'a pas été fini. On prend de la farine, on met de l'eau, on pétrit, on forme la pâte et on la cuit. Donc maintenant, toi, ce que tu donnes à l'enfant, c'est du tout cuit. Parce que tu l'as déjà digéré. Mais si toi, ce n'est pas cuit, parce que toi-même, tu n'as pas compris. Quand tu comprends pas, n'explique pas. Timmy, alors tu t'énerves, Timmy. Mais je comprends pas, tu comprends rien. Alors le gosse, il te regarde, il dit, mais attends, papa, toi non plus, t'as pas compris. Mais il a honte de te dire que t'as pas compris. Mais il sent que t'as pas compris. Parce que tu t'affoles. Pourquoi tu t'excites? Parce que t'as pas compris. D'accord ou non? Donc tu peux prendre les qualités du rave, tu les appliques au père.
Ça va?
Hein? Mais si, pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que quelqu'un dit, ah, bon, j'ai pas étudié, voilà, j'ai pas fait de 20 ans d'yeshiva, qu'est-ce que je vais faire? D'accord, super. Mais tu es rave dans tes midotes à toi, tu es rave dans l'honnêteté, tu es rave dans la patience, tu es rave dans l'écoute, tu es rave dans les efforts, tu es rave dans le travail. Tu es, ça, celui-là, comme tu te lèves tous les matins, non? Bah alors, donc tu peux lui enseigner ça. Bah tu t'énerves pas quand on te remet en cause, tu peux lui enseigner ça. C'est ta Torah à toi. Tu me dis, j'ai rien acquis. Donc tu es un espèce de zombie handicapé mental. Ouais, tu te lèves pas, tu dors, tu cries, tu... Ah, ah c'est vrai, t'as raison. Comment ils sont nés les enfants? Tu sais, on ne sait pas. Un accident génétique. Non, il y a des choses qui sont là. Ça, c'est ta Torah à toi. Cette Torah, tu es Melamdo. Mipne chez Melamdo Torah. Ça veut dire la Torah, elle t'a donné le schéma du comportement du père. Alors qu'est-ce qui crée ce schéma? Il crée la Yira. D'accord? Parce que c'est marqué Mipne chez Mitiare. Mitiare, Yoter, Miaviv, Mimo. L'enfant, il craint plus son père que sa mère. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Que l'enfant, il reçoit, il réagit avec la crainte, la Yira, parce que le père lui donne la Torah. Ouais. Donc c'est bien. Ça veut dire qu'on sait exactement maintenant quel doit être le type de comportement. Et je vous ai résumé, je vous ai dit vérité, perpétuité, stabilité. Donc, tu vas fixer, tu vas dire, voilà, on va étudier tous les soirs. Si c'est trop dur. On va étudier une fois par semaine. Stabilité. Ouais. Je vais te parler. Perpétuité. Je sais ce qui se passe dans ta tête, ce que tu fais à l'école. Stabilité. Maintenant, tu es bien, je suis bien. Tu es pas bien, je suis encore bien. Perpétuité, stabilité. D'accord. Je me remets pas en cause, je dis pas n'importe quoi. Vérité. Ouais, cette logique-là. Eh bien, qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne une perpétuité. Et cette perpétuité, c'est ça qui donne chez l'enfant la crainte. Donc, l'autorité, ouais, elle crée la crainte, c'est la résonance. Maintenant, comment elle s'appelle cette crainte chez l'enfant? Elle s'appelle la structure mentale et la force d'affirmation. C'est comme une planche. La planche, au départ, elle est comme ça, elle est comme ça, elle n'est pas droite. Tu prends le rabot, ouais, tu passes. Tu repasses. Tu repasses. Tu repasses. Mais attention, c'est pas évident, parce qu'il faut être bien droit et régulier. Et après, la planche, elle est lisse, comme ça. L'enfant, c'est pareil. Il n'a pas compris, tu réexpliques. Et tu réexpliques, tu réexpliques. Ah ben, à 23 ans, il va enlever son doigt de son nez, non? Ah, moi, je lui ai expliqué 3 fois, ça m'énerve. Comment ça t'énerve? C'est-à-dire que toi, tu n'as pas compris que ça t'a mis 35 ans, tu t'énerves pour lui, pourquoi il a pas fini à 8 ans? Encore une fois, on réfléchit, oui. Pour avoir un plan lisse, on a passé 8200 fois le rabot. Donc quand toi tu es dans une logique d'apprentissage, tu n'es pas précis. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. C'est du long terme. Oui. C'est comme les gens qui se marient et qui au bout d'un mois, ils s'énervent parce qu'ils ne se comprennent pas. Mais si le mariage, ça dure 50 ans, c'est que ça prend moins de 5 ans ou 10 ans pour se comprendre. Parce que c'est un rinour, c'est un rinour, c'est un apprentissage du couple. Comme il y a un apprentissage de l'enfant, comme il y a un apprentissage du travail. Tu t'étonnes, tu dis, oh tu sais au début de la société, c'était pas évident. Ben évidemment t'as appris. T'as appris, ouais. Même quand tu es médecin, alors tu fais 6 ans d'études et 3 ans d'internat. Ben pourquoi? Ben il faut bien que t'apprennes. Ben non, ben c'est bon, j'ai fini, j'ai qu'à faire directement, j'ai ouvert mon cabinet. Écoute, il vaut mieux qu'il y ait un grand médecin avec toi, qu'il y ait un chef de clinique. Et tu vas faire, tu vas faire ton apprentissage. Donc, tu veux ou non? C'est pareil. Donc, le couple, il a besoin d'un apprentissage. Ben, c'est les premières années de mariage. L'éducation, c'est pareil. Même les parents, ils ont besoin d'un apprentissage. Parce que quand les enfants, les petits, les grands, ils disent, oh papa, t'es vachement plus cool avec les petits qu'avec nous. Alors tu dis, j'ai appris sur le tas. Alors tu dis, c'est qui le tas? Eh oui, c'est la vie, hein? C'est normal. Toute la vie, c'est comme ça. Donc quelqu'un, il comprend ça. Il comprend en vérité que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en place une structure. Et maintenant, la Torah, elle t'a donné la nature de la structure. C'est quoi? Chez Melamdo Torah. Maintenant, on a dit, qu'est-ce que ça provoque? Que l'enfant, il craint plus son père que sa mère. Et cette crainte, elle vient de quoi? On a dit, elle vient... de l'autorité. C'est que quand le père, il impose l'autorité, l'enfant, il reçoit la crainte. Alors, je vous avais expliqué déjà plusieurs fois qu'en psychologie, c'est comme en mathématiques. 4 fois 3, ça fait 12. Et 3 fois 4, extraordinaire. C'est énorme, non? Ça ne vous dérange pas? 4 fois 3, ça fait 12. Et 3 fois 4, ça fait 12. D'accord? Donc, si on a dit que l'autorité du père entraîne la crainte, d'accord? C'est bon? Donc la crainte de l'enfant encourage l'autorité du père. Donc les gens qui te disent... il faut écouter, c'est pas de ma faute. Donc je répète. 4 fois 3, ça fait 12.
Et... ça, je l'ai...
super. Le 4, c'est quoi? C'est l'autorité du père. Et le 3, c'est la crainte de l'enfant. Donc l'autorité entraîne la crainte. Okay. Ça va. Mais la crainte de l'enfant, oui, elle encourage l'autorité.
Encourage l'autorité.
Ben oui. Parce que quand tu vois que ton fils il t'écoute, ça t'encourage à jouer ton rôle de père. Donc toi tu crées chez l'enfant le côté enfant en étant un père, mais lui il t'encourage à être un père parce que lui il est enfant. Valentin, qu'est-ce que tu fais toi? Tu te conduis pas comme un père, mais tu reproches à ton fils de ne pas te considérer comme un père. Mais tu es pas un père. Comme toi, tu n'es pas une mère. Après, tu dis à l'enfant, oui, l'enfant, il ne me donne pas ce que j'ai besoin. Mais toi, tu ne lui donnes pas. Mais c'est ça la logique d'apprentissage. Il y en a bien qui commence. Maintenant, toi, a priori, t'es déjà un adulte, a priori. A priori, je veux dire... Ça, moi, toujours, je rigole, je dis, regardez, ça s'appelle une photo de famille. Comment vous trouvez? C'est magnifique, c'est une photo de famille. Oh, ça sert à rien, une photo de famille. Ben oui, parce que dans les photos de famille, c'est complètement débile, tu vois. Le père, la mère et les quatre enfants. Alors quelqu'un dit, ben écoutez, c'est la photo de la famille. Ah oui, donc je vous explique. Hein. Donc là, vous avez le père, et là, vous avez la mère. C'est, a priori, ça se voit. Ouais. Et puis là, il y a les enfants. Mais c'est débile, une photo de famille, ça sert à rien. On a tout de suite compris qui sont les parents, qui sont les enfants. Non, mais c'est pas évident. Il y a des familles, c'est pas évident. Il y a des familles, tu dis, ah, c'est le père? Ben, je pensais que c'était la mère, parce que vraiment, c'est... Et la mère? Oh, ben, je pensais que c'était le père, parce que vraiment... Et les enfants? Ben, c'est eux qui décident de tout, donc je pensais que c'était eux, les parents. Et les parents, ben, ils sont là, oui, ben, écoutez, n'arrive pas, écoutez, c'est pas grave, on va vous laisser, hein, les enfants, faites ce que vous avez à faire. Vas-y, voilà, les cendriers sont là, les allumettes, le chiffre, tout est prêt, je m'en vais. Après, tu te dis, ouais, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est la panique dans la famille. Enfin, ça se terminera jamais. Je te dis, c'est des mathématiques. 4 fois 3, 3 fois 4. Je sais que j'insiste lourdement, mais c'est impossible autrement. C'est que l'autorité entraîne la crainte. Et la crainte encourage l'autorité. Et chez la maman, c'est la même chose. Parce qu'on a dit que l'enfant, il respecte plus sa mère que son père. L'enfant, il respecte plus sa mère que son père. Et on a dit que le respect, c'est la résonance de l'amour. Donc, quand quelqu'un te donne de l'amour, tu lui renvoies du respect. Maintenant, l'enfant, naturellement, il respecte sa mère. Parce que la mère lui donne de l'amour. Maintenant, c'est quoi le respect? C'est le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Maintenant, puisque ta mère te donne de l'amour, donc tu l'encourages à te donner de l'amour. Donc, tu n'as pas de mal à la respecter, puisque le respect, c'est de l'encourager encore à donner l'amour. Donc, en mathématiques, on continue. 4 fois 3, 3 fois 4. Donc, c'est facile. L'amour de la mère entraîne le respect de l'enfant, qui est naturel. D'accord? Et le respect de l'enfant va entraîner l'encouragement à donner de l'amour. C'est pour ça que quelqu'un que vous ne respectez pas, il n'arrive pas à vous aimer. Donc, le respect entraîne l'amour. Et l'amour entraîne le respect. Maintenant, l'enfant, il a besoin et d'un père et d'une mère. Donc, il a besoin de l'amour de la mère et il a besoin de l'autorité du père. C'est bon? Maintenant, l'autorité du père, elle est naturelle, puisque le père, c'est un père et il lui enseigne la Torah. Et l'amour et le respect envers la mère, c'est normal, puisque la mère, elle donne l'amour. Et on a dit que l'amour entraîne le respect. C'est toujours bon. Ça va. Maintenant, à l'époque, quand on avait fait le cours sur relations parents-enfants, je vous avais expliqué que quand c'est marqué que l'enfant respecte plus sa mère que son père et que l'enfant craint plus son père que sa mère, si on a dit qu'il respecte plus et qu'il craint plus, c'est donc qu'il y a une proportionnalité. Or, puisque le respect est une conséquence de l'amour exprimé par la mère, oui, et qu'il y a plus, ça veut dire que la mère, dans son comportement, elle a 70% d'amour. Donc 70% de tendresse. Ce qui n'exclut pas 30% d'autorité de la mère. Maintenant, le père, lui, on a dit qu'il exprime quoi? L'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est 70% d'autorité dans son comportement. Ça n'exclut pas 30% de tendresse. Maintenant, l'enfant, il a besoin de la tendresse de la mère et de la tendresse du père, proportionnelle. Et il a besoin de l'amour de la mère et de l'amour du père. Non, c'est l'autorité du père et l'autorité de la mère. Seulement, c'est quoi? C'est la proportion. Maintenant, pourquoi il a besoin de 70% d'autorité masculine et 30% d'autorité féminine? On a dit pourquoi? Parce que l'autorité du père, ouais, elle est teintée de crainte. Mais l'autorité de la mère, elle est teintée d'amour. Ça va? Exactement comme la crainte d'Hachem. Le début de la crainte d'Hachem, c'est quoi? C'est la crainte d'être puni. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est la crainte de fauter. Et le troisième niveau, c'est quoi? C'est la crainte de décevoir. Premier niveau de crainte de Dieu, c'est quoi? c'est iratret, irataonesh. J'ai peur de prendre des claques, j'ai peur de prendre des coups, j'ai peur que ça porte malheur, je vais avoir des problèmes. En fait, c'est la peur des gamins, t'as peur de te faire attraper et de prendre des coups. La deuxième, c'est quoi? C'est iratret. Iratret, c'est quoi? C'est que t'as peur de faire une erreur. Comme toi, t'as déjà une recherche de perfectionnement, c'est pas que t'as peur de te punir, c'est parce que tu veux faire les choses bien, donc t'as peur de faire une erreur. C'est iratret. Troisième niveau, c'est quoi? Irataromemut. Étant donné que maintenant, tu es rentré, entre guillemets, dans une certaine proximité avec Hachem, et ça te fait tellement plaisir d'être cette proximité, alors tu ne veux pas perdre cette proximité. Ça s'appelle la irataromemut, c'est le niveau le plus élevé. C'est-à-dire que tu as la crainte que quoi? De la grandeur des choses. C'est bon? Ça va vraiment. Maintenant, bizarrement, la crainte de la grandeur, donc la peur de décevoir Dieu, ouais, que ce n'est pas parce que tu as peur d'être puni, ou ce n'est pas parce que tu as peur de faire une erreur, c'est parce que tu as peur de décevoir. Cette peur de décevoir, c'est quoi? C'est de perdre le contact avec Dieu. Or, la peur de perdre le contact, elle ressemble beaucoup à l'amour. Parce que c'est quoi l'amour? L'amour, c'est le contact. Ça va? Super. Donc maintenant, quand on a dit que la crainte... que la crainte du père, ouais, non, que l'autorité du père, elle a une nature de crainte, mais que le respect de la mère, elle a une nature d'amour. Maintenant, on a dit que l'enfant, lui aussi, il doit avoir l'amour du père. Comment il va avoir l'amour du père? Parce qu'il va respecter le père. Maintenant, comment il va respecter le père? Parce qu'il va trouver l'amour du père. C'est ça que c'est marqué, qu'un enfant, pour pouvoir accomplir les mitzvot de Kibud Av V'Em, il est obligé de se casser la tête pour trouver chez son père une qualité spéciale qui n'existe nulle part au monde que chez son père. Ouais, il y a un certain niveau de patience, un certain niveau d'honnêteté, un certain niveau de compréhension qui n'existe que chez son père. Donc automatiquement, il va apprécier ça chez son père, ce qui va le rapprocher de son père. Donc ça veut dire que puisqu'un enfant ne peut respecter qu'une chose qu'il aime, mais que malheureusement, l'amour du père ne se voit pas, puisque les trois quarts de l'amour du père s'expriment à l'extérieur de la maison, puisqu'il travaille. Et quand il rentre à la maison, on lui dit « joue ton rôle de responsable de la Gestapo », et après qu'il a mis la tannée, il dit à son fils « j'espère au moins que tu comprends combien je t'aime ». Donc le fils, il dit « j'ai bien compris ». Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné une mitzvah à l'enfant de chercher l'amour du père. Pourquoi? Parce que tu ne peux respecter quelqu'un que quelqu'un dont tu vois l'amour. Donc quand la Torah a dit « Kaved et avicha vet imecha » « Respecte ton père et ta mère », ça veut dire que l'enfant, il a une mitzvah de chercher l'amour du père. Maintenant, puisqu'en cherchant l'amour du père, il va ressentir quoi? Le respect pour le père. Ça va ou non? Ça va ou non? C'est clair? Et bien ça, c'est pour quoi faire? C'est pour contrebalancer l'extrême de la crainte. Parce que l'autorité du père, elle crée la crainte. Mais la crainte, malheureusement, elle peut aussi pousser à la révolte. Donc comment est-ce que l'enfant, il ne va pas tomber dans la révolte à cause de l'autorité du père? Parce qu'il a vu l'amour du père. Maintenant, il y a une mitzvah pour l'enfant de chercher l'amour du père qui va le permettre de ne pas se servir de l'autorité pour dire « Eh ben, tu sais pourquoi j'ai craqué? Parce que tu m'as trop poussé. » Il va dire « Oui, mais je t'aimais aussi. » Mais ça, il faut... Donc la Torah, elle a donné une mitzvah à l'enfant de chercher à respecter son père en priorité, « Kaved et Avicha. » Et pour respecter, on a dit qu'il faut voir l'amour. Donc la Torah, elle a donné une mitzvah à l'enfant de chercher l'amour de son père pour réussir à le respecter. Et maintenant qu'il le respecte, il va réussir à ne pas tomber dans le piège de l'autorité, que l'autorité, elle peut être interprétée comme une forme de méchanceté qui pourrait pousser l'enfant à se révolter. Donc la Torah, elle a donné le poids et le contrepoids. Vous me suivez ou non? Le poids et le contrepoids. Comme dans une voiture. La voiture, il y a les amortisseurs. Maintenant, si les amortisseurs, ils sont mal réglés, s'ils sont bien réglés, ils vont accrocher dans le virage. Donc ça va éviter à la voiture de sortir. Mais si les amortisseurs sont mal réglés, ils sont trop mous, ils vont emmener la voiture dans le ravin. Donc il faut des amortisseurs, mais il faut régler les amortisseurs. Ça va. Il faut une direction. Il faut que la direction. Mais la direction, c'est très bizarre. La direction, c'est ce qui donne la direction dans une voiture. Ouais. Et ben la direction, elle doit être souple. Ça s'appelle une direction assistée. Je dis, mais comment elle peut être dure et souple? Si la direction n'est pas dure, elle roule pas droit la voiture. Ouais. Mais si elle n'est pas assistée, tu vas mourir pour tourner. Maintenant, comment on appelle la direction assistée? Ben, la direction, c'est l'autorité, et assistée, c'est les 30% d'amour du père. Maintenant, chez la mère, il y a les 70% de tendresse. Ça, c'est les amortisseurs. Mais les amortisseurs aussi, ils doivent être réglés. Comment ils s'appellent? Ils s'appellent l'autorité de la mère. Les 30% de rigueur de la mère vont être le contrepoids de la tendresse. Maintenant, la tendresse, qu'est-ce qu'on a dit? Elle crée chez l'enfant la créativité, elle crée chez l'enfant un respect. Ouais. Maintenant, on veut que l'enfant il ait du respect et de la crainte. Donc pour ça, il a besoin et de l'autorité et de l'amour. C'est sûr ou non? Donc on va trouver maintenant une autorité qui est teintée d'amour et un amour qui est teinté d'autorité. C'est pareil. Ton Rav, tu sens qu'il t'aime, mais il est dur avec toi. Tu dois prendre tes 63 d'apim par cœur. Je dis, mais je vais mourir. Mais tu sais pas vraiment. Tu sais qu'il ne va pas te frapper, qu'il ne va pas te tuer, qu'il ne va pas t'enfermer dans un cachot. C'est pas le monastère, c'est une yeshiva. Ouais. Donc en fin de compte, tu vas le craindre par amour. Ça va? Et la mère, tu vas l'aimer par crainte. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que la mère, tu vas l'aimer par crainte de la décevoir. Et le père, tu vas le craindre par amour pour le lien que tu as créé avec lui. Ça va? Ça va ou non? Donc ça nous donne, et c'est très important, ça nous donne la nature de l'autorité. C'est un mélange subtil. Parce que les gens y croient, la rigueur, c'est la dureté, c'est l'intransigeance, c'est l'intolérance. Parce que si c'est t'es tolérant, ça y est, c'est fini, ils font ce qu'ils veulent. Les rabotailles, c'est la règle. Ça s'appelle l'exception qui confirme. Comment l'exception elle peut confirmer la règle? Eh bien, l'exception qui confirme la règle, c'est les 30% de tendresse du père. Et c'est quoi l'exception qui confirme la règle? C'est les 30% d'autorité de la mère. Parce que quand la mère, elle te dit, écoute, je ne vais rien dire à papa, mais on a un contrat tous les deux. Tu fais les devoirs. Ah, tu te moques de ta mère. Ta mère, elle te dit, bon, c'est fini, papa. Le contrat est terminé. Tu pars pas en vacances cette année. Oh maman, je t'en prie, je recommence plus. Mon fils, c'est un contrat. Tu dis, mais t'es dur. Je suis dur, moi. Moi, je suis dur. 30%, je suis dur. À quoi ça sert? Parce que plus tard, l'enfant, quand il va être gentil, il va être sympathique, comment il va faire pour ne pas se faire rouler? Comment sa gentillesse, elle ne va pas le rendre un idiot? Comment il ne va pas se faire vampiriser? Parce qu'il sera capable d'être gentil. Mais quand il sentira qu'on exagère, il sera capable de dire stop. Qui c'est qui lui a appris à dire stop dans la bonté? C'est sa mère. Mais non, il doit être rigoureux, il doit avoir une tête claire, il doit avoir un raisonnement extrêmement puissant. Mais non, d'où il va trouver la force de faire une exception et de remettre une dose de tolérance dans une situation qui est vraiment très rigoureuse? Les 30% de tendresse du père. Donc ça, c'est quoi? C'est que cette autorité, en fin de compte, vous voyez, encore une fois, elle est à 50% naturelle, 50% artificielle. 50% naturelle, pourquoi? Parce que toi, par ta nature d'adulte, eh ben tu imposes. C'est normal. Oui? Et 50% qui est artificielle, pourquoi? Parce que tu l'as créé par les apprentissages. Mais les 50%, il faut les régler avant. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme un lion. Par exemple, un lion. Ouais. Quand un lion, il sort de la cage, il s'approche de toi, il n'a pas besoin de te dire « Hé, je suis un lion. Tu as peur, c'est un lion. » Je ne sais pas si... Vous ne dites pas « Allez, c'est pas possible, c'est un lion. » Oui, c'est un lion. Moi, je rappelle qu'un lion, à chaque coup de patte, il enlève 10 kilos de viande. C'est puissant. C'est fort, un lion. C'est très fort. Ouais, c'est très fort. C'est un lion. Le lion, il ne s'impose pas. Par contre, si une souris, elle se prend pour un lion, elle rentre comme ça, ouais, elle fait « Waouh !» Tu dis « C'est une souris. » C'est une petite souris. La souris de Metro Goldwyn Mayer. Elle est très connue, d'accord. C'est une petite souris. Alors, il y a des gens, malheureusement, ouais, ils n'ont pas pris le temps de devenir des lions, ouais. Mais ils croient qu'ils sont des lions. Mais leurs enfants, quand ils les voient, ils voient des souris. Et une souris qui rugit, c'est une souris. Donc ça, c'est quoi? C'est les 50% qui sont naturels. Parce que tu es un adulte. C'est pareil, tu es une maman. Tu es une maman. Maintenant, si tu es une gamine, si tu es en panique, si tu n'arrives pas à te maîtriser, si tu dis n'importe quoi, si tu mens, si tu te justifies, ben, ils voient une souricette. La souricette, pour s'imposer, elle est obligée de crier. Après, je dis, ouais, mais t'arrêtes pas de gueuler. Mais elle n'a pas besoin de gueuler. C'est la maman. On l'a bien vu sur la photo, non? Donc ça, c'est les 50% qui sont naturels. Ça, c'est le travail que tu as fait sur toi. Comme moi, par exemple, moi, je vous dis quelque chose. Ça m'appartient à moi. C'est moi, j'ai travaillé sur ça. C'est à moi. Oui. Vous pouvez dire, je ne suis pas d'accord. Oui, mais il va falloir discuter parce qu'il y a des bases, il y a des raisonnements, il y a des années de travail. C'est pas de ce matin, là. C'est pas né ce matin. Ça va? Donc moi, tu dis, mais je vous trouve bien sûr de vous. Ben, j'ai travaillé. L'autre, il est alpiniste. Eh ben, il a travaillé. L'autre, il est cuisinier, il a travaillé. Et l'autre, il est rabbin, il a travaillé. Quand tu as travaillé, tu n'as pas à avoir peur. Ah, tu dis, mais pour qui tu te prends? Je dis, ben, je me prends pour moi. D'accord? Eh ben, le père, il se prend pour le père. Et la mère, elle se prend pour la mère. Et ça va très bien. Ça, c'est les 50%. Les autres 50%, c'est quoi? Eh ben, c'est les apprentissages. Allez, levez-vous. Allez, les enfants, on se met à table. Allez, révise ta leçon. C'est pas. Alors, je m'en fous. Sors, s'il te plaît, pousse ton cartable. Assis-toi. Oui. Vas-y, sors ton cahier de texte. Vas-y, on y va. On lit. Ah, j'ai pas envie, je m'en veux. J'ai pas envie. Oui, alors, qu'est-ce que tu as ce soir à faire? D'accord. Alors, vas-y, mathématiques. Donc, vas-y, ouvre ton livre, s'il te plaît. Lis l'énoncé. Oh, ça merde. Oui, d'accord. Lis-le, oui. Voilà. Toi, tu es une barre de tungstène. Si au quatrième soupir du gosse, tu dis, oh ben c'est comme ça, mais il n'a pas envie de bosser, ben il a qu'à se débrouiller. Donc ça fait deux gamins maintenant. C'est plus une famille, c'est un ganon. Tu crois que c'est facile de travailler avec un gosse qui a pas envie de travailler? Je vous rappelle une notion de plomberie élémentaire. Quand vous mettez de l'eau dans une bouteille, l'eau reste dans la bouteille parce que la bouteille est en verre. Ça va? Pourtant, avec quoi on fait le verre? Avec du sable. Mais quand vous mettez l'eau dans le sable, l'eau ne reste pas dans le sable parce qu'il s'en va à l'intérieur, parce que c'est du sable. Alors comment ça se fait que l'eau disparaît dans le sable alors qu'on fait la bouteille avec du verre, alors que l'eau reste dans la bouteille? Parce que le sable s'est transformé en verre. Donc il faut vite que les parents deviennent des parents. Vite, vite. Parce que s'ils restent en sable, l'eau, elle s'en va. Maintenant, l'enfant, il cherche ça. Il cherche le verre. Alors il pousse. Il pousse les limites. Il voit jusqu'où il peut aller. Il essaye. Il dit un mot de travers. Hop, ça marche. Il fait une petite crise. Hop, ça marche. Il claque la porte. On lui dit rien. Il va pas dormir. On lui dit rien. C'est pas évident. Hein? Ah ben, c'est comme ça. T'es du verre, toi. T'es du tungstène. T'es clair. C'est comme ça. Mais il faut jouer le jeu. Attention, si aujourd'hui t'es du verre, demain t'es du sable. Après t'es du sable, après t'es du verre. L'enfant, il sait plus. Il dit, attends, je sais plus quoi faire. Alors je le pousse un peu. Alors des fois, il joue sur les deux. Il sait que sa mère est en verre, son père est en sable. Des fois, il voit que son père est en sable, sa mère est en verre. Des fois, l'inverse. C'est facile. Des fois, il sert de l'un pour casser l'autre. Je demande un truc à papa, il dit non. Elle dit maman, il dit oui. Après, il va chez papa, il dit maman, elle a dit oui. Oh, qu'est-ce qu'il fait le père? Il casse la mère maintenant. Hop, ça fait hop, tac, ça fait les deux ensemble. Il a gagné. Le père, c'est du verre. La mère, c'est du verre. Ça va? Donc, il faut déjà avoir réglé le problème de Shalem. Avant, Shalem, c'est Shalom, c'est avant. Comme il est Shalem, l'homme il est Shalem, la femme elle est Shlema. L'homme il est entier, la femme elle est entière, et elle est entière comme le verre. Il est entier comme le verre, l'enfant il bouge pas. Mais si nous-mêmes déjà on n'est pas d'accord, ouais mais je crois que c'est facile, je crois que c'est simple. Ça les enfants, là, ça les gars, il fallait le régler avant. Ça. C'est, c'est, pas, c'est pas devant les gamins que tu vas commencer à discuter qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Parce qu'ils disent, mais c'est vachement pratique, là, il y a une faille. Là. Vous savez comment on fait pour casser une falaise? Une falaise. Une montagne. Une montagne. Vous savez comment ça se passe? Au printemps, l'eau, elle rentre dans les... Il pleut. L'eau, elle rentre dans les fentes. Et en hiver, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gèle. Et en gelant, elle double de volume. Et en doublant de volume, elle fait tomber un morceau de la montagne. Tu dis, mais enfin, ça n'est pas possible. Comment, même, on va dire, même s'il y a 200 litres d'eau, comment 200 litres d'eau, ouais, qui a plu dans l'Alfort, elles ont fait tomber 400 tonnes de pierre? Tu dis, mais ça n'a rien à voir. On a juste doublé le volume. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il rentre entre les deux, ouais, et après, il fait sa petite crise. Il double de volume. Mais il fallait comprendre qu'il y avait la place. Donc la distance qui existe entre l'homme et la femme, ouais, soi-disant on n'est pas d'accord, soi-disant on n'a pas la même façon de penser, de toute façon on s'est marié trop vite, on n'a pas réfléchi. Fais attention, tu as deux problèmes. Premièrement, tu prends une distance avec ta femme, avec ton mari. Deuxièmement, tu crées un espace pour la contradiction de l'enfant. Donc si l'enfant il est divisé dans ses choix, c'est parce que les parents ils sont divisés dans leur façon d'être. Donc puisqu'il n'y a pas de shalom, l'enfant il n'est pas shalom. Maintenant vous c'est pas grave, vous allez vous arranger, bon vous êtes de toute façon, vous êtes ensemble, et puis ça vous évite de payer plus d'impôts. Donc vous allez trouver des solutions. Mais l'enfant plus tard, quand il va rentrer dans la vie, il ne sait pas, il dit je vais me conduire comme ma mère ou comme mon père, vu qu'il y en avait deux. Je vais être religieux comme mon père ou pas religieux comme ma mère? Comment il va faire? Est-ce que je vais être trop cool comme mon père ou je vais être trop dur comme ma mère? Il ne sait pas comment il va faire. Le vrai problème, c'est quoi? C'est la différence. Je vous donne toujours cette règle. Il vaut mieux avoir deux parents idiots que un parent idiot, un parent intelligent. Ben oui. Parce que quand tu as deux parents idiots, soit tu vas être comme tes parents, idiots, soit tu vas être contre tes parents et tu vas être intelligent. Mais quand tu as un parent idiot, un parent intelligent, tu vas être quoi? Tu vas être ni intelligent, ni idiot. Ce qu'on appelle un zombie. C'est des gens qui veulent être intelligents, après ils disent, oh j'ai envie de faire l'idiot. Ils veulent être idiots, après ils disent, ouais mais c'est pas bien d'être idiot, vaut mieux être intelligent. Alors ils sont ni idiots, ni intelligents. Maintenant, pour les idiots, il y a des murs, grâce à Dieu, et dans le mur, on revient. Pour les intelligents, il y a des routes, et dans les routes, on roule. Mais pour les idiots intelligents et pour les intelligents idiots, il n'y a pas de solution. C'est comme les hamsters qui tournent sur leur truc, là. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'avancent pas. Ils font du surplace. Et ils accusent le monde entier. C'est de la faute, c'est de la faute, c'est de la faute, c'est de la faute. Alors leur psy leur a dit que c'était à cause des parents, ils sont contents. Après, leur copain, il leur a dit que c'était à cause de leur femme. Après, à cause des enfants. Après, c'est à cause du rabbin. Après, c'est à cause de l'école. Après, c'est à cause de l'État. Après, c'est à cause du climat. Après, c'est à cause de la grippe A. C'est toujours à cause de quelqu'un. C'est jamais à cause d'eux. Pourquoi? Parce que quand les parents, ils sont en vert, ils renvoient à l'enfant sa part de responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'elle donne, l'autorité des parents? Elle donne la responsabilité des enfants. Maintenant, pour que l'enfant, il se sente responsable de sa responsabilité, c'est parce que toi, en tant que parent, tu assumes ta responsabilité. Toi, tu dis moi. Hein?
C'est un travail d'équipe.
C'est normal. Donc, équipe entre l'homme et la femme, mais après, équipe entre les parents d'un côté et les enfants de l'autre. Ça s'appelle kol echad bimkomo. Chacun, il est à sa place. Maintenant, pourquoi l'enfant, il a fait une erreur? Eh bien, il va payer l'erreur. Tu dis, oh, c'est pas grave. Mais c'est bon pour lui. C'est bon qu'il paye l'erreur. C'est très bon. Moi, je me rappelle, on était dans une colonie de vacances. J'étais petit. C'était une colonie goy. Je me rappelle. Et quand on se salissait, ouais, on était petit. Hein. Le moniteur de l'école, de la colonie, il nous donnait une savonnette et on allait laver notre culotte dans le lavabo. J'ai dit, mais ma mère, ta mère, il n'y a pas ta mère ici. Ta mère, c'est toi avec ton lavabo et tu frottes avec ton savon. Je te promets que la prochaine fois, quand tu vas aux toilettes, tu t'essuies. Bon, l'exemple, il est un petit peu cru, mais c'est pareil. Ta chambre, regarde ta chambre. Viens. Bon, bonsoir, papa, bonsoir, maman, salut. Dis-moi, c'est quoi ça? La femme de ménage, elle est venue. Elle t'a rangé ta chambre. Regarde la chambre. Tu t'en vas là ou tu pars maintenant? Eh bien, je vais faire le balagan d'ailleurs. Non! Il y a que les ouragans qui s'en vont. Toi, tu n'es pas un ouragan. Toi, tu es une personne. Tu vas, tu ranges ta chambre. Et après, tu t'en vas. Oh, mais j'ai pas le temps, je vais être en retard. Mais non, tu n'es pas en retard. Parce que si ta tête, elle est comme ta chambre, tu n'es pas en retard. Tu n'es même pas né. Donc, tu vas d'abord ranger ta chambre. Et après, si Dieu veut un jour, tu vas ranger ta vie. Ah, mais pourquoi tu lui imposes? Laisse-le tranquille, laisse-le qu'il soit cool. Mais s'il a toujours l'habitude qu'il y a quelqu'un derrière pour faire le ménage, donc il peut tout faire. Il peut voler, il peut mentir, il peut tricher puisqu'il sait que son père, il vient derrière, il fait le ménage. Il peut insulter sa femme puisque sa mère, elle va appeler pour dire « Écoute, tu sais comment il est, je t'en prie, pour le shalom, les ma'ana shalom. » Mais non, quand il a fait une gaffe et qu'il appelle sa mère, il dit « Maman, je t'en prie, appelle ma femme parce que je me suis mal conduit. » Elle doit lui dire « Mon fils, tu veux un conseil de ta mère ?» Oui. De brasque. Appelle-la, excuse-toi. Mais je peux pas, j'ai de la gava. Écris une lettre. Va pleurer. Fais n'importe quoi, débrouille-toi. C'est-à-dire que toi, en réalité, toi, quand tu as pris ta place, l'autre, il va prendre sa place. Et c'est très bien. Comprenez ou non? Et c'est très bien. Donc cette autorité, encore une fois, pour qu'elle existe, elle a été créée. Ensuite, elle a été créée chez le parent lui-même, d'accord? D'ailleurs, en français, on dit c'est une personnalité qui fait autorité. On dit en français, elle fait autorité en la matière. Tu vois, celui-là, il est spécialiste en immobilier. On dit, il fait autorité dans la matière. Ce médecin-là, il est très spécialiste du diagnostic cancéreux. On dit, il fait autorité en la matière. C'est quoi, il fait autorité? Tu t'étonnes pas, toi? Mais parce que il est devenu une bombe dans ce domaine. Donc, il fait autorité. Et ben, toi, tu fais autorité dans ta famille. Donc, comme tu fais autorité, le malade, il est rassuré. Or, la moitié de la guérison, ouais, c'est la confiance que tu as dans ton médecin. Et l'autre moitié, c'est la confiance dans le médicament. Comment tu vas faire? Tu n'as ni confiance dans l'un, ni confiance dans l'autre. Il s'est marqué ici. Donc ça veut dire quoi? On parle maintenant, on parle de sang-froid, on parle de maîtrise, on parle d'une force tranquille. Ouais. C'est comme une montagne. Quand tu dis, tu sais, quand on va dans les Alpes, tu dis, oh, c'est magnifique, c'est, oh là, tu vois une montagne, oh, c'est énorme, c'est, oh là là, c'est énorme, ouais, c'est magnifique, ouais. Et bien tes parents, ils doivent être comme ça. Et toi, aux yeux de tes enfants, tu dois être comme ça. T'es énorme. C'est les Alpes. C'est les Alpes italiennes. Ouais, c'est magnifique. Maintenant, pour être quelqu'un de magnifique, il faut devenir magnifique. Toi, tu dis, non, je ne suis pas magnifique, mais eux, ils doivent me respecter en tant que magnifique. T'es pas magnifique, t'es pas magnifique. C'est comme si tu vois un petit terrain vague avec une bosse comme ça et tu dis, ça ne fait pas l'effet des Alpes. C'est un terrain vague. Il n'est pas clair du tout. Tu vois, la montagne, elle fait... Ouais, c'est comme ça. Et toi, Blainara, ça fait 34 ans que tu travailles tes midotes. Tu vas être une bombe atomique. 40 ans! Oh là là! Et c'était pleur! C'est pour ça que je vous donne un exemple. Avec le type qui insulte. Rappelez-vous, on dit meuf. Vous rappelez de cet exemple-là? Oui, non? Non? C'est comme tu es en haut d'un immeuble. Un immeuble de 30 étages. Et en bas. Voilà. Mais il n'était pas là, lui. Donc c'est, et en bas, il y a un type qui crie comme ça. Et toi, tu es en haut. Et il y a quelqu'un qui monte et te dit, tu sais, le type qui est en bas, il insulte ta mère. Ça t'énerve pas. Vraiment, avec une grande sérénité, tu vas amener un frigidaire, tu vas le jeter. Mais gentiment, beau frigidaire américain, comme ça, 800 kilos, tu... Ça prend une tâche de moi, ouais. Oh, tu t'énerves pas, pourquoi? Parce qu'il y a 30 étages qui vous séparent. Ça va ou non? C'est pareil maintenant. Toi, tu as 38 ans. Lui, il a 8 ans. Il y a 30 ans qui vous séparent. Comment il peut t'énerver? Tu dis oui, mais tu sais, je suis très déçu. Mais si tu es déçu, c'est que tu es dans la même sphère.
t'es pas dans la même sphère. Lui, il est dans les gamins. Et toi, t'es dans les adultes. C'est comme si au feu rouge, il y a un type qui est en vélo, et toi, t'es dans ton 4x4 BMW, et le type, il te regarde, il dit, on fait la course. Tu dis, il parle à qui, lui? Il est là avec son vélo, il dit, attention. Et toi, t'es là. 390 chevaux, 110 au point mort. Tu comprends pas à qui il parle, tu? Tu dis, non, moi, je dis. T'as mis un moteur de Ferrari en plus, ouais. Et lui, il est là avec son vélo, il a 4 vitesses. Il est en 4e. Ça commence même pas l'histoire. Même pas tu t'affoles. Même pas tu t'excites. Ouais. Non, il y en a, ils vont douter, ils vont dire, oh, peut-être qu'il est bon au démarrage. Comprenez, c'est logique ou non? Mais c'est pareil. Comment tu rentres en concurrence avec un gamin de 14 ans? Mais c'est un gamin. Comment tu rentres? C'est pareil maintenant. Je dis, oui, mais là, c'est pas un gamin, là, c'est ma femme. Mais c'est pas ta femme. Ta femme, c'est la mère de famille. Ta femme, c'est une femme sérieuse. Ta femme, elle est extraordinaire. Ah, tu te bagarres avec le yédecin de ta femme. Ah, parce qu'elle a eu un cri, elle a un coup de nerf, maintenant, elle a dit une bêtise. Maintenant, tu t'accroches sur ça, mais prends le reste. Pareil pour ton mari. Tu dis, écoutez, monsieur, je vous parle pas. J'en ai parlé à l'adulte. Je vais pas faire une course avec un vélo. Maintenant, tu conduis comme un débile. J'ai dit, écoute, tu sais quoi, t'es fatigué. Va dormir, demain, on va parler. Ah, tu crois que c'est comme ça? Écoute, t'es fatigué, t'es énervé. Va dormir. Et quand tu retrouves tes esprits, on va parler. Je vais pas faire une course avec un vélo. J'ai pas épousé un vélo. Oui ou non? Cette logique, c'est quoi? C'est qu'on se rassure mutuellement. Et c'est ça la force. Maintenant, il n'y a pas de différence maintenant. Pourquoi? Entre toi et ta femme, et toi et ton mari, et les deux et l'enfant. Puisque la preuve, c'est que, comme une fois j'ai expliqué, que d'abord, il faut éduquer l'enfant qui est en toi avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi. Vous vous rappelez de ce principe ou non? La semaine dernière, si, la semaine dernière, j'ai donné une conférence. À la fin de la conférence, en fait, une personne que j'avais rencontrée le mardi, après, elle m'a dit, je voudrais vous parler. Je lui ai dit, écoutez, là, vraiment, je ne peux pas, je dois partir tout de suite. On se voit jeudi. Le type, il est venu après un cours jeudi. Maintenant, moi, je finis le cours, et lui, il est là. Il y a des gens qui me disaient, je voulais vous parler. Je lui ai dit, écoutez, j'ai rendez-vous avec ce monsieur. Je lui parle d'abord, parce qu'il est venu exprès pour parler. D'accord. Mais juste avant que je commence à parler, il y a une fille qui vient me dire, ah, j'en ai pour 5 minutes, 5 minutes, c'est toujours 5 minutes, c'est toujours 50 minutes. Quoi. Je dis d'accord, elle commence à parler, lui il dit d'accord, allez-y, allez-y madame, allez-y. Bon, elle commence à parler, Et après le type il vient. Elle s'en va, lui il vient. Il me dit, vous savez, Raph, je suis contrarié quand elle. Raph, je suis contrarié, c'est très difficile pour moi parce que moi je m'attendais à vous parler tout de suite et ça m'a gêné quand elle voulait vous parler. Moi j'ai rien dit, mais en fin de compte ça me dérange parce que moi je sais que je vous dérange et il est tard et vous êtes fatigué. Je lui dis, écoute, moi je suis bien. Je t'ai donné rendez-vous. J'ai plus rien. J'ai pas de famille, j'ai pas de fatigue, j'ai rien. Maintenant, je suis avec toi, je parle avec toi. Oui, mais c'est pas... vous dites ça pour me faire plaisir, et c'est trop difficile, et je sais que vous n'êtes pas bien, et puis en plus, j'ai 36 ans, et je suis pas marié, et je suis seul, et je suis mal, et j'assure pas, et je suis un pauvre type, j'ai rien fait de ma vie, je suis en panique totale. En fait, le type, il est maniaco-dépressif, d'accord? C'est du sérieux. Je dis, écoute, mon frère, tu es là devant moi. D'accord. Je vais te raconter une histoire. En fait, c'est un test. Je vous l'ai déjà dit peut-être, mais je vous le redis, ça pourra vous aider si un jour vous voulez devenir thérapeute. Ou simplement père de famille, c'est la même chose. Donc, je vous donne la règle. Je raconte cette histoire, écoutez l'histoire. Maintenant, vous pouvez vous-même, en même temps que je vous la raconte, vous pouvez même faire le test vous-même. Je dis, tu vois, il y avait un avion. Maintenant, il est énervé comme ça, il est excité. Voilà, respire bien. Écoute l'histoire. Il y avait un avion dans la cordillère des Andes, au Tibet là-bas, ouais, perdu dans la montagne. Il vole en pleine tempête de neige. Et il s'écroule, il tombe, il s'écrase. Et sur les 50 passagers, il y a 48 morts. Les deux survivants, c'est un enfant et un adulte. Un monsieur de 40 ans et un enfant de 6 ans. Ils ne se connaissent pas. Ils sortent les deux comme ça, des débris de l'avion. Tout le monde est mort. Il n'y a pas de chauffage. Il fait moins 40. Il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de nourriture. Et ils sont à 100 km du premier village. Qu'est-ce qu'il fait l'adulte? Il ferme son manteau, bien, l'écharpe, la cagoule. L'enfant, il lui met une cagoule, il lui ferme le manteau, il lui ferme bien, il lui prend la main et il commence à marcher dans la neige. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Comme ça, je raconte l'histoire au type. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il lui tire la main, il dit, monsieur, ça ne sert à rien de marcher. Alors l'enfant, il dit, pourquoi ? Il dit, monsieur, on est à 100 km du premier village, il fait moins 40 degrés, on n'a pas de radio, on n'a pas de chauffage, on n'a pas de nourriture. On va mourir. Alors je le demande à lui. Je lui dis, t'as compris l'histoire ? Il dit, ouais. Je dis, toi, si tu étais l'adulte, qu'est-ce que tu lui aurais dit ? Maintenant, je vous dis, selon la réponse, vous pouvez nous voir le niveau de gravité de la personne. Les plus graves, il y a des gens qui disent, c'est vrai, on va mourir. Celui-là, il faut l'emmener tout de suite à l'hôpital. Non, c'est-à-dire qu'il peut se suicider demain. Il n'a aucune ressource de répartir. Il y en a un autre qui va dire, on va lui dire qu'on va essayer au moins. Il y en a un autre qui va dire, non, on lui prend la main, on lui dit, c'est bon, allez, on va y aller, on va réussir, on va marcher, on va trouver du secours, on va s'approcher d'un village, on va faire du feu, on va faire trouver une solution. Je dis, tu vois, celui qui panique en toi, c'est l'enfant. Celui qui assure en toi, c'est l'adulte. Maintenant, toi, tu es venu au rendez-vous, tu es venu me voir. Tu n'es pas venu me voir pour me dire que tu paniques, sinon ça veut dire que c'est l'enfant qui est venu, c'est pas l'adulte. Donc, où tu veux t'en sortir, et c'est pour ça que tu es venu. Où tu veux rester tordu et malade, et donc c'est de la victimisation, et je peux rien faire pour toi, tu n'as pas besoin de moi pour continuer à vomir. Tu n'as qu'à vomir tout seul. Il s'est calmé. Mais de temps en temps, ça remonte, je lui dis, respire. Allez. Voilà, je suis venu vous dire que c'est ça, voilà, je voudrais m'en sortir pour ça, je voudrais m'en sortir pour ça. Tu vois le type, il a quelqu'un qui panique en lui, quelqu'un qui s'affole. Ça va ? Maintenant, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de différence entre l'enfant qui est en toi et l'enfant qui est devant toi. Maintenant, quand tu maîtrises l'enfant qui est en toi, tu rassures l'enfant qui est devant toi. Maintenant, c'est une grande tentation pour un parent de faire l'enfant. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi ? Oui, mais pourquoi ? Mais, non, c'est pas une question, c'est une formulation. C'est parce que. Qu'est-ce que dit mon agent ? J'ai encore un peu de temps ou... Ça, je bouge pas. J'ai signé le contrat d'exclusivité. Pour toute l'Italie en plus. Donc c'est quoi l'idée ? Ouais. C'est que la personne elle-même. Encore une fois, elle va se rassurer elle-même, d'accord ? Donc maintenant, il y a les nerfs qui te montent. Tu dis, mais je ne peux pas, je suis le père, je suis la mère, d'accord ? Tu dis, mais je suis déçu. Mais je suis déçu de quoi ? Je suis déçu de ce que je vois ou de ce que j'ai fait ? Maintenant, je parle de quoi maintenant ? Ah, mais je ne suis pas content, c'est pas normal, nanana. Je suis en train de faire du lachonara sur le bébé que j'ai mis au monde. C'est-à-dire que quand moi, je me projette, ouais, en tant qu'adulte, et je regarde l'enfant qui est en moi, je dis, écoute, maintenant, ce n'est pas le moment d'être un enfant. Alors maintenant, je vais être un adulte en face d'un enfant. Maintenant, qu'est-ce qui va encourager l'enfant à devenir un adulte ? C'est le fait que moi, je suis un adulte. Donc, c'est pas seulement l'exemple. C'est ce que je suis devenu. C'est pas que je joue un rôle. Parce que si je joue un rôle, puisqu'on est dans une logique de reflet, donc l'enfant, il va jouer un rôle. Je sais pas si vous me suivez. Parce que même les gens, ils comprennent pas. Ils disent, mais comment ça se fait que le petit, il fait des bêtises en cachette ? Ben, toi, t'en fais. Ben oui, mais moi, j'en fais, mais il le sait pas. Mais la vie, c'est un miroir, baba. L'enfant, il fait en cachette ce que toi, tu fais en cachette. Mais l'enfant, il fait devant toi ce que toi, tu fais devant lui. C'est un miroir. C'est comme dans le miroir, tu fais comme ça, et tu te retournes, et tu dis, je mets le doigt dans le nez. Et tu te demandes, tu te dis, mais est-ce que dans le miroir, le mec qui est dans le miroir, il se met le doigt dans le nez ? Alors, je vous le dis, ne vous vexez pas. C'est pas parce que tu le vois pas que le reflet n'est pas le même. Je sais pas si vous... Donc toi tu mens à tes clients et tu dis aux enfants, dites la vérité. Mais eux, ils ont un menteur. Ou une menteuse. Oui ou non ? Toi, tu as des priorités qui ne sont pas tes priorités. Mais tu demandes aux enfants d'avoir ces priorités qui ne sont pas tes priorités. Donc eux, ils ont les mêmes priorités que toi. Tu dis, mais non, mais je pense que ça serait bien pour eux d'avoir d'autres priorités. Mais il faut que ça soit tes priorités. Si ça n'est pas tes priorités, ça ne sera pas leur priorité. Tu dis, mais je leur montre que c'est mes priorités. Ah, la Torah, la Torah. Mais est-ce que c'est ta priorité ? La Torah. Impossible. Vous comprenez cette logique ou non ? Pourquoi ? Parce que l'enfant, je vous ai déjà dit 1000 fois, l'enfant ne comprend rien, mais il ressent tout.
Donc l'enfant, il ne reçoit pas ce que tu as, il devient ce que tu es. Donc tu dis, mais je lui envoie des messages et je lui explique. Je te dis, tu es en train de lui servir une pâte qui n'est pas cuite. Il va avoir mal au ventre, alors il va plus, il la mangera pas. Tu lui mets une Torah de Rama, tu lui mets une ambiance à la maison de Rama. Hein, encore, hier encore, un monsieur m'appelle. Je lui dis, vous trouvez ça normal? Ma femme, comme ça, comme ça, comme ça. Et mon mari, et mes enfants, ils ne me respectent pas. Je dis, bon, je dis, alors? Alors lui-même, avant que je finisse, il me dit, bon, c'est vrai que je suis très nerveux, que je suis très déçu, qu'au fond, ma femme, je ne la supporte plus, que les petits, ben, ils m'énervent parce que je rentre du travail, je suis fatigué, et je ne peux pas entendre des cris, et puis je leur mets une tannée pour qu'ils aillent dormir. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux, même? Après, mon fils de 5 ans, il m'a dit, papa, je t'aime pas. Je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, ben, c'est à cause de sa mère. Je dis, ah bon? Et à part ça, il me dit, ben, peut-être que j'ai pas réussi à être aimé. Je dis, ben, c'est bien, tu as commencé à faire des chauvins. T'as texte, ah. Donc, les enfants, ils vont t'aimer parce que tu te fais aimer. Ils vont avoir peur parce que tu leur fais peur. Ils vont te respecter parce que tu es respectable. Ça se terminera jamais, je pense. Donc, l'autorité, vous avez compris maintenant, l'autorité, c'est un niveau de perfectionnement. En tant que mère ou en tant que père. Et c'est ça qui rassure l'enfant. En fin de compte, c'est quoi? C'est la personne que tu es devenue. Et c'est un outil énorme, c'est un outil énorme. Et ça, il n'y a pas à se forcer. Pourquoi? Je lui ai dit pourquoi? Parce que le lion ne force pas. Le singe, il est obligé d'ouvrir les dents comme ça. Parce qu'il pèse 20 kilos. Alors il fait... Alors, t'as peur? Parce que on dit en français, il fait le singe. Donc si toi tu fais le singe, c'est parce que tu sais que tu n'es pas un lion. Donc le travail des midot que tu as fait, le travail que tu as fait sur ta prière, le travail que tu as fait sur tes mitzvot, mais c'est ce que tu es. Le travail que tu fais sur tes nerfs. Mais c'est dur de ne pas dire 4 gros mots par phrase. C'est comme tu veux. Tu dis oui, mais tu comprends, moi c'est pas évident dans la rue, le chauffeur devant moi il m'énerve, au travail l'employé il m'énerve, alors je lui ordonne des gros mots. Mais les enfants ne le savent pas, mais shalom. Ils n'ont pas besoin. T'en fais pas, ils vont faire comme toi. À l'école, ils vont dire des gros mots, et à la maison, ils ne vont pas dire. Après, le professeur, il dit, oui, vous comprenez, votre fils dit des gros mots. Tu dis des gros mots, c'est impossible. Mon fils ne dit pas de gros mots. Pas devant vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, non seulement l'autorité, elle est nécessaire, mais en vérité, ça va être la structure de l'enfant dans laquelle il va grandir. Maintenant que cette autorité, elle a des natures. C'est pour ça qu'on a dit l'autorité qui ressort de la mère, en vérité, elle est conséquente de l'amour. Et l'autorité qui ressort du père, vous voyez, elle est conséquente de cette crainte. Maintenant, cette crainte-là, elle a aussi des connotations d'amour. C'est pour ça que le fils, finalement, qui craint son père, il va finir par le respecter. Pareil que l'enfant qui respecte sa mère, il va finir par la craindre. Maintenant, la crainte qu'on a de la mère, après, quand on a 20 ans ou 30 ans, c'est pas la crainte qu'on se prend une baffe. C'est pas la crainte qu'il va nous, pas nous donner notre argent de poche. C'est la crainte de décevoir. C'est la crainte de perdre le contact. Donc, quand l'enfant, il a reçu l'autorité, mais que c'est une autorité, encore une fois, qui est teintée d'amour, oui, alors c'est pas un mur. Mais quand l'autorité, c'était un mur, eh ben la balle, quand elle rebondit contre le mur, plus elle a frappé fort, plus elle rebondit loin. Après, tu dis, vous trouvez ça normal que les enfants ne téléphonent pas, qu'ils ne viennent même pas nous voir, ils ne nous demandent même pas des nouvelles. Comment t'étais, toi? Ben, j'étais un mur. Et eux, comment ils étaient? Ils étaient une balle. Eh ben, la balle, elle a rebondi loin. Mais toi, tu n'es pas un mur, toi. Toi, tu es une direction. Oui? Toi, tu es une proposition. Toi, tu es une relation. Donc, l'enfant, il va dire, mais attends, je l'adore. Maintenant, je l'embrasse. Oui? C'est vrai. Ton père, tu viens, tu l'embrasses la tête, tu le prends dans les bras. C'est pas facile. C'est pas facile. Pourtant, tu dis, oh, mon père, il était comme ça, il était comme ça. Mais il grandit, il change. C'est ton nounours. Comment ton héros, il devient un nounours? Parce que tu as bien compris que derrière sa carapace, il y avait de la gentillesse. Tu comprends cette logique-là? Ça revient plus tard. Parce qu'il y a un moment... Pour l'autorité, il y a un moment pour le... C'est pas grave. Comme la mère aussi. Parce que quand tu réfléchis, tu dis finalement ma mère qui était tellement cool, qui était tellement rigoureuse, qui était tellement cool, en vérité elle était très rigoureuse. C'est ça la différence.
c'est que le père, il est en métal à l'extérieur et il est nounours à l'intérieur. Et la mère, elle est en douceur à l'extérieur, mais à l'intérieur, pour tenir toutes ses obligations, elle est en métal. Donc c'est quoi la logique? C'est que l'enfant maintenant, il va avoir à l'intérieur de lui-même l'équilibre entre la tendresse de la mère et la rigueur du père. Mais il a les deux maintenant. Il a la rigueur, en vérité, qui est teintée de tendresse, et il a la tendresse qui est teintée de rigueur. Donc il saura prendre des décisions. Il saura aller au bout de ses choix. Il saura finaliser les directions qu'il prend. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de la direction et des amortisseurs. Il les a reçus. Ah, on va dire, mais ça, c'est dans un idéal. Ça, c'est valable si on a un père-père et une mère-mère. Qu'est-ce qu'on va faire dans le cas où on a un père-mère et une mère-père? Puisque c'est le père qui donne la tendresse et c'est la mère qui donne la rigueur. Comment on va faire?
C'est pas grave.
Vous avez raconté ça quand j'ai commencé à donner des cours. J'avais un élève, et il a fait teshuva et tout ça. La teshuva, c'est pas simplement de mettre les téfilines. C'est de faire grandir, de construire la personne. Et il a rencontré une fille, elle voulait pour se marier. J'ai vu que la fille avait une personnalité, mais c'était un mec. Après, j'ai pris des renseignements, j'ai vu que la mère de la fille, c'était un mec. Et la tante de la fille, c'était un mec. En fin de compte, toute la famille, toutes les femmes sont des mecs. Ça devient une religion d'ailleurs. Ils vont tous les ans à la mec. Donc, alors j'ai eu un peu peur. J'ai commencé à parler avec le garçon, j'ai dit, garçon, mais te laisse pas faire. Alors, avant de trop fracasser, j'ai été voir un rave. Je lui ai dit, rave, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez ce garçon, il a rencontré une fille, mais la fille elle a une très forte personnalité. Il m'a dit, Ria, tu es jeune. C'est un homme d'expérience. Il m'a dit, toi, tu crois que le modèle, il est que l'homme, il est fort, et la femme, elle est soumise, et que la femme, elle est rassurée par l'autorité du mari. Il m'a dit, il y a des modèles. Il y a des maris qui aiment bien avoir une femme forte. Et ils sont bien. Et il y a des femmes qui aiment bien, après la naissance du troisième, se rendre compte qu'ils ont quatre enfants. Il y a des femmes qui aiment ça. D'accord? Ils aiment ça. Et c'est pas grave. Et c'est une autre forme d'équilibre. Que quoi, les couples, en vérité, il y a pratiquement autant de modèles que de couples. Et des dosages, ils sont héros comme ça. Il y a des couples qui gueulent tout le temps. Tu crois qu'ils sont pas bien? Ils sont très bien, mais c'est leur façon de parler, ils gueulent. Il y en a, ils se parlent jamais. Tu dis, mais enfin, s'ils se parlent jamais, ils sont malheureux. Il y en a qui se parlent jamais, qui sont malheureux. Il y en a qui se parlent jamais, ils se comprennent très bien. Où elle est la communication, où elle est la transcendance, où elle est la... Ben, il n'y a pas, c'est comme ça. Et ils vivent bien. Donc ça veut dire quoi l'idée? C'est que chaque fois, il y a des modèles. Le modèle, c'est quoi? C'est le modèle du couple. Maintenant, il y a aussi toutes les exceptions, c'est normal, vous avez compris. Il dit, maintenant, l'idée, c'est pareil. Donc, dans l'idéal, on a dit, il faut qu'il y ait un père-père et une mère-mère. Maintenant, si le rééquilibrage, il est fait entre un père-mère et une mère-père, et que ça fonctionne bien, ouais, et que les choses se font normalement, pourquoi? Parce qu'ils ont reçu leur dose d'autorité et leur dose de tendresse, et que l'équilibre, il se fait. C'est pas grave. Ouais. Ah, et s'il n'y a qu'un père? Alors, allez, nous, il y a eu un divorce et il a eu la garde, où il n'y a pas eu de. Où il y a un veuvage. Ou le contraire, le père, il est parti avec la secrétaire et la mère, elle reste seule. Comment elle va faire pour que les enfants ils aient un père, puisque elle est la mère? Alors, elle va faire le père, au détriment de son rôle de mère. On a dit non. Quelqu'un, il va compenser que quoi? Qu'il va donner à l'enfant l'environnement d'influence qui crée chez l'enfant l'impact du père, et va le créer de manière artificielle. Avec l'école, avec le travail, avec la colonie de vacances, avec les responsabilités, elle va créer un père artificiel qui va donner à l'enfant le père dont il n'a pas eu. Le contraire aussi. La maman, elle n'est pas là. Alors il faut qu'il travaille sur d'autres domaines, comme la sensibilité, comme le côté artistique, comme le côté créatif, pour donner à l'enfant la mère qu'il n'a pas eu. Parce qu'en vérité, l'école idéale, c'est le père et la mère. Mais malheureusement, il y a beaucoup que le travail pour eux, ça a été le père. Ils ont un rapport avec le patron qui est un rapport de père, qui n'est pas un rapport de patron. Parce que tu vois bien qu'en fin de compte, le père qu'ils n'ont pas eu, ils l'ont trouvé dans le patron. Il y en a assez avec le professeur, il y en a assez avec leur rave, ils font tes chevaux, leur rave devient le père. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de modèles qui se créent, toujours pour compenser le manque qui n'a pas été développé au départ. Donc ça veut dire que l'école, elle est plurielle, elle n'est pas singulière. Donc c'est pas un modèle, c'est des centaines de modèles. Ce qui compte, c'est quoi? C'est d'avoir les principes. Après, les principes, comment ils vont s'accomplir? C'est ça qu'on dit. On dit que l'architecte, il a fait le plan de la maison. Maintenant, le chef de travaux, il dit, monsieur, ça va pas se passer exactement comme ça. Oui, ils ont marqué 12 mois, mais ça va prendre 2 ans. Mais pourquoi? C'est marqué 12 mois. Oui, mais l'architecte, il n'a jamais été sur un chantier. Il ne sait pas comment ça se passe, qu'il cite un seul coup et il y a un morceau qui s'écroule. Là-bas, le plâtre, il n'était pas de bonne qualité. Ça prend 2 ans. Il dit, mais ça doit coûter 1 million. Non, non, ça va coûter 1,5 million, monsieur. Comment, 500 000 euros? Oui, oui, 500 000 euros. Vous n'avez pas compté la peinture, là? Eh bien, écoutez, les murs sont blancs. Oui, ils sont blancs, c'est du plâtre. Mais pour pouvoir arrêter le plâtre, il faut mettre de la peinture. Maintenant, 800 mètres carrés habitables, eh bien, ça fait 100 000 francs de peinture. Hein? 100 000? Ben oui, hein. Vous pouvez mettre de la chaux, mais c'est plus long. C'est comme ça, ça s'appelle les surprises. C'est pareil. Ouais. Toi, des fois, tu as une surprise. Ta fille, elle te dit, papa, je me marie. Tu dis, bon, enfin, on n'a pas l'argent. Oui, oui, elle dit, je me marie. Eh ben, ça va. Bracha, vaslacha. D'accord? Donc, c'est comme ça. Donc, toi, tu fais des plans et la vie, elle en a d'autres. Toi, tu as une théorie, la vie, elle est pratique. Donc, cette logique-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu ne veux pas être démonté, être déstabilisé par la réalité, c'est parce que toi, déjà, encore une fois, tu as amorti, tu as absorbé cette structure, tu l'as construite chez toi. Après, le reste, ça va être quoi? Ça va être la logique. C'est pour ça qu'on dit toujours que dans l'éducation, il faut développer beaucoup d'ambition et en même temps, il faut développer beaucoup de capacités d'adaptation. Parce que les enfants, ils ne veulent pas être forcément exactement comme tu croyais. Des fois, tu plantes une rose, il pousse une carotte. Tu dis, mais enfin, c'est une graine de rose. C'est une graine de rose qui vient d'un rosier. Mais là, il y a une carotte, là, qui est née, là. Toi-même, tu te sens carotté. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. C'est pas grave, on crache, on va l'aimer comme il est. D'accord? Parce que bon Dieu lui-même, il nous supporte. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, on ne les supporterait pas. Donc, c'est ça l'idée. Voilà. Donc, juste avant de dédier le cours, juste vous rappeler que... comment on avait fait le pack Shalom Bayit à l'époque? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, on a fait le pack éducation. Donc, en réalité, c'est un coffret. À l'intérieur, vous avez un autre coffret. Dedans, il y a 11 cours qui correspond en vérité au coffret éducation qu'on avait avant. Mais en plus, il y a un CD de 15 cours en MP3 qui sont des cours pour les adolescents. Parce que des fois, il y a des messages que vous voulez faire passer aux enfants, mais que vous n'arrivez pas à faire. Donc, c'est pas grave, le rabbin, il s'en charge. Si vous voulez, vous les écoutez en même temps. Et à l'intérieur, et c'est plus important, vous avez un livret de 15 pages où on vous explique une démarche pour écouter les cours dans quel ordre. Maintenant, ça, c'est des cours qu'il faut écouter en tant que parents ensemble. Ils sont dans certains ordres. Maintenant, moi, je connais l'impact des cours. Donc, ça correspond à peu près à un doctorat de pédagogie. Ouais. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de passer 10 ans à la fac, vous le faites ensemble et c'est suivi. Et à chaque fois, on vous explique le contenu du cours et ensuite, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme application. Vous écoutez un cours par semaine, à peu près une semaine et demie. Toute la semaine, vous mettez en application. C'est un programme. Le programme, c'est pour accompagner les parents. Parce que malheureusement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et tout ça, les cours, pas forcément dans l'ordre. Des fois, ils les écoutent en repassant ou dans la voiture. Ils ne font pas un vrai travail. Or, le secret de la réussite, c'est le travail. Donc, si vous travaillez sur le sujet, maintenant, vous le faites avec ça, vous le faites avec des livres, même des livres Goy qui sont très bien écrits sur l'éducation, c'est très bien. Dolto, elle a fait beaucoup de choses. Regardez son fils Carlos, d'accord? Donc, vous pouvez apprendre, il n'y a pas de problème. Mais ce qui compte, le secret, c'est quoi? C'est de s'investir pour. Donc là, c'est un support de travail sur l'éducation pour les gens qui s'intéressent. Maintenant, on va dédier le cours pour. Et ça, c'est que des fois chez les mains pour. C'est quoi ça? Les Unishmat? Et toutes et tous? D'accord. Donc, on va dédier le cours Leilou Nishmat de Hachem Ilélem Laneshama de Avraham Asin Ben Irène.
Amen.
Pour Shlomo Chalak Ben Latifa.
Amen.
Pour Esther Asin Bat Elisa.
Amen.
Pour Enrico Ben Irène.
Amen.
Pour mon père, Zikon Mocha, Avraham Shimon Ben Simcha.
Amen.
Pour Yitzhak Ben Aisha.
Amen.
Sion Armando Ben Elisa.
Pour Sion Armando Ben Elisa.
Moshe Ben
Luna.
Pour Denise
Messaouda Silverstone. Oui, David Blanca Ben Raphaël, c'est Yom Hishmat. Hein?
Hana Bat Usher Angel.
Hana Bat
Usher Angel.
Usher
Angel.
Angel. Amen.
Benjamin Ben Esther Georgia.
Benjamin Ben Esther Georgia.
Yosef Ben Julia.
Kachem Eliam Gornishamot parmi les Sadikim Israël. Et on va demander aussi la réfoua chez Lema pour tous les malades d'Israël et en particulier pour Barbara, Ruth, Yael, Bat Miriam,
Amen.
Amen. Pour Simcha Bat Flecha,
Amen.
Pour Esther Bat Flecha,
Amen.
Hana Bat Aziza,
Amen.
Gabriel Eliezer Bat Evelyn Aziza,
Amen.
Evelyn Aziza Bat Simcha,
Amen.
Pour Yitzhak Ben Aisha,
Amen.
Pour Nathalie Kamra Bat Saada,
Amen.
Pour la réfoua chez les mains, vous avez Shmuel Ben Esther, pour Rav Azimov, Rav Mordechai Eliyahu, Rav Eliashiv, Rav Ovadia Yosef, Enat Rachel Bat Eliza, Rina Bat Eliza, Yaakov Ben Sara, qu'Hachem leur envoie tous une réfouchéma parmi tous les malades. Merci à vous. Le prochain cours, le 25 janvier.